Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouvel épisode du club. Vous le savez, chaque mercredi, les portes du club s'ouvrent pour nous permettre de regarder sur le passé, sur le présent, toutes les belles choses qui nous ont accompagnés et qu'on aime toujours mettre en avant et mettre en lumière. Et aujourd'hui, alors, on a une double émission, un peu plus longue que d'habitude. On va parler de plein de belles choses importante, étonnante, galvanisante, réjouissante dans cette émission. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'un documentaire qui est toujours disponible sur Paris Première autour, évidemment, de ce groupe mythique que furent les Charlots, qui est signé Frédéric Tepper, qui est avec nous, qui est en régie. Nous aurons aussi Julien Dassin, qui sera avec nous pour un spectacle hommage à son papa. Mais dans cette première partie d'émission, je vais vous proposer de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Nous allons passer en revue le prix Gottlieb qui sera remis samedi prochain lors du Salon du Livre. On va évidemment revenir sur ce grand monsieur avec nos invités. Avec Lola, on va justement s'intéresser à ce que ça fait quand on est la jeune génération et qu'on découvre Gottlieb aujourd'hui. Et puis Arnaud nous a découvert spécialement pour notre invité, nos invités, une pépite autour de Gottlieb. Petit indice qui date de la fin des années 70. Voilà. Bonjour Lola, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être là pour accueillir nos invités. Et on est vraiment très très heureux. Je le disais, un monument de la bande dessinée. Le deuxième volume sort aujourd'hui même. On va rendre hommage à un immense monsieur Gottlieb, revenir sur ses grandes heures de la bande dessinée à l'occasion de la remise du prix Gottlieb qui aura lieu samedi prochain lors du Salon du Livre. Et je suis ravi d'accueillir celle qui est chargée de transmettre finalement cet héritage aussi à la jeune génération. C'est ça qui est important, pas simplement à ceux qui ont connu Gottlieb, mais aussi à celles et ceux qui vont le découvrir aujourd'hui. Bonjour Ariane Gottlieb.
Bonjour Alexandre.
Je suis très heureux de vous accueillir avec à vos côtés un fidèle parmi les fidèles. Je crois que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que vous vous connaissez et il est depuis le tout début du prix Gottlieb, dans le jury du prix Gottlieb. Et je suis ravi de l'accueillir parce qu'on parlait de grands noms, notamment de la chanson française. Thomas Dutronc en est un. Bonjour.
Merci, bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir à quelques jours de la remise de ce quatrième prix Gottlieb, c'est ça ?
Oui,
ça a été initié en 2023, si je ne me trompe pas. On va revoir tout à l'heure un petit peu ce que ça donne d'ailleurs quand vous délibérez dans ce prix Gottlieb. En quelques mots, pourquoi c'est important que justement l'esprit de votre papa perdure encore aujourd'hui et notamment à travers un prix littéraire ?
C'est important pour plein de raisons qui sont, un, lire, pour que les jeunes aussi puissent lire encore et toujours, en plus bien sûr de des réseaux, des tablettes et de tout ça. Deux, parce que la bande dessinée humoristique, c'est une discipline extrêmement compliquée, donc je trouve que c'est très bien de la récompenser, et ça n'a jamais été fait avant. Et puis, accessoirement, effectivement, ça fait du bruit autour de Gottlieb, et c'est bienvenu.
Et ça fait du bien, et ça fait vraiment du bien, parce que je le disais, on a l'impression aujourd'hui que, en tout cas, une certaine forme de bande dessinée n'a plus cours, ou en tout cas qu'on la regarde un petit peu avec une certaine distance. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce trait de crayon, cette signature si particulière, où quand on ouvre un album de Gottlieb, on sait qu'on est chez Gottlieb, au même titre qu'on le verra tout à l'heure, quand on parle de Cabu, on sait qu'on est chez Cabu, enfin voilà, chez tous ces grands auteurs. Et pour vous, Thomas, pourquoi c'est important d'être, au-delà de l'amitié que vous portez tous les deux, mais d'être présent dans ce prix Gottlieb depuis le début?
Parce que c'est... Gottlieb, son papa, c'est vraiment un grand maître. Je l'ai découvert assez tard, moi, quand même, puisque je l'ai découvert à 14-15 ans, grâce aux Nuls. À mon époque, il y avait les Inconnus et les Nuls. J'étais fan des deux. Je regardais tous les soirs les Nuls, ce groupe d'humoristes qui passait à Canal+ à l'époque. Et donc, j'étais vraiment en admiration sur leur... J'ai toujours aimé le second degré. J'ai grandi avec les Monty Python, les Marx Brothers et compagnie. Et là, je les ai vus pour la première fois. Tous les soirs, je les regardais à Nulle Part Ailleurs, en mangeant ou juste après avoir fait mes devoirs d'écolier. Et puis là, d'un seul coup, je vois les Nuls qui ne restent plus. Ils viennent à table avec Philippe Gildas et tout ça. C'était la première fois qu'ils se déplaçaient pour un invité parce que c'était Gottlieb. Ils étaient à ses genoux, à ses pieds, en disant « On vous adore tellement, vous êtes un dieu, vous êtes un génie » et tout ça. Et moi, je ne connaissais pas et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir. Et puis évidemment, j'ai adoré. Et je trouve que ça fait partie des... Je sais... Sans dire des mots grandiloquents, je veux dire, on adore être sur Terre parce qu'il y a le printemps, là c'est le printemps, c'est génial, il y a la mer, la montagne, les oiseaux, c'est quand même beau. Après, les êtres humains, ce qu'ils font, c'est quand même parfois...
C'est pas toujours génial,
mais Gottlieb, ça fait partie des merveilles du monde, voilà. C'est le baume au cœur, ça vous fait du bien, c'est de l'humour, ça parle à votre âme d'enfant, mais aussi d'adulte et à tous les âges, quoi. C'est incroyable d'avoir une telle... Et puis il y a ce grand talent, cet humour, ce coup de crayon... cette humilité aussi, il se prend pas pour je sais pas quoi, c'est tout, je sais pas, on se sent accueilli dans son univers et ça fait trop de bien. C'est un des plus grands génies de l'humour. Tu te piques des crises de rire, c'est quand même comment c'est hyper rare de lire quelque chose ou de une BD. Et voilà, moi c'est voilà, il y a pour moi il y a Uderzo, Goscinny et Gottlieb qui me font autant de bien, quoi.
Ça réconforte autant que ça chatouille, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait du bien, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les grands noms.
Gaston Lagaffe aussi bien, Franquin et JDM aussi, qu'on oublie souvent, parce que je connais la veuve de JDM, qui s'appelle Madame de Messmaker, qui a un amour, qui est un petit peu âgée, qui a des problèmes de santé. Mais voilà, et JDM a fait énormément de choses. On parle que de Franquin tout le temps, mais voilà, c'est un auteur qui a beaucoup... compter pour tout, Gaston, qui a fait tous les premiers gags et tout.
Par la suite, il y a eu la naissance un petit peu de la suite de papa, avec dans Fluide, beaucoup de dessinateurs humoristiques, Comédica, Gossens, Meister.
Toute une génération qui s'est glissée dans les pas de votre papa. On va évidemment y revenir et on verra avec Lola ce que ça fait quand la jeune génération, dont on dit que parfois elle est un petit peu fébrile face à une certaine forme d'humour, en tout cas, qu'est-ce que ça fait quand on découvre aujourd'hui Gottlieb. Vous allez voir, en général, quand Lola se penche sur un ouvrage, on a envie de l'acheter et de le lire dans la foulée, tellement elle nous en parle bien. Donc on va s'y intéresser tout à l'heure. Avant de commencer cette émission, de rentrer dans le vif du sujet, on a pas mal de choses à vous montrer. On a une tradition, on aime bien se replonger dans des grand moment de la télévision, c'est notre séquence du téléspectateur, et on s'est dit qu'il a fait partie à un moment donné du jury du prix Gottlieb. C'est lui aussi un grand nom de la chanson, c'est monsieur Eddy Mitchell, et on se replonge dans cette grande émission que moi j'adorais suivre quand j'étais petit, qui était La Dernière Séance, quand il rentrait dans ce vieux cinéma et qu'il nous dévoilait le programme du cinéma qu'on allait voir tout au long de la soirée. Et bien quand Eddy Mitchell faisait ça, ça donnait ça, regardez, petit instant pépite souvenir.
Donc ce soir, nous allons voir Bonnie et Lafty. Nous allons voir à 20h45 La Terre des Pharaons de Warlocks. À 22h30, Les Actualités de l'époque. 22h40, Le Chef d'Orchestre Magicien, qui est un dessin animé de Tex Avery. À 22h50, Les Publicités et les Réclames. À 22h55, Sur Scène, une attraction extraordinaire, puisqu'il s'agit de monsieur Jacques Gilles. À 23h, le journal de Heffer 3. À 23h10, le jour où la Terre s'arrêta, et non pas s'arrêtera comme un imbécile l'a marqué. Bonsoir.
Demandez bonbons, caramel, esquimau, chocolat, madame.
Oui, bonbons, caramel, esquimau, chocolat, c'est également le titre d'une chanson qui, comme vous l'avez remarqué, n'était pas dans le film que nous venons de voir.
C'est décalé, mais c'est derrière que ça compte. Ah voilà, La Dernière Séance.
Ouais, grand souvenir.
Grand souvenir de télévision, ça a duré très très longtemps, jusqu'au début des années 2000, hein, produit par un grand monsieur de la télévision qui s'appelait Gérard Jourduy, qui a beaucoup, beaucoup fait pour cette émission dans laquelle Eddy Mitchell faisait redécouvrir le patrimoine cinéma. Voilà. Et pour redécouvrir les coulisses de cette émission, je vous invite à venir sur le site de Veil. On a pu réaliser une grande interview de Gérard Jourduy il y a quelques années, et ça a été un vrai plaisir d'échanger avec ce grand monsieur de la télévision. Mais revenons à Gottlieb. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à votre papa, à son parcours, à cette œuvre-là, on sait jamais par où commencer finalement. Alors je suis un novice. Imaginons, je suis dans la peau d'un novice, je ne connais pas Gottlieb. J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour commencer à appréhender votre papa ?
À 20 ans, 30 ans, on peut déjà aller largement sur la rubrique Abrac, les dingos dossiers. À 30 ans, on peut aller sur Ralovli, Pervers Pépère. et
bon,
voilà.
À 20, non, tu penses encore
c'est... Oh,
à 20, mais sous le, oui. Un peu planqué. Et puis avant, plus jeune, on peut quand même se diriger sur Galluron, qui était édité dans Vaillant d'abord, puis Gadget ensuite. Et qui permet une double lecture, donc on peut le reprendre ensuite adulte, et là on peut voir des choses qu'on n'a pas forcément saisies quand on avait 12 ans et qu'on a lu Galluron, et une espèce de deuxième degré un peu plus adulte.
Et... Non, c'est un régal même adulte, hein, Galluron. Je relis tout régulièrement, ça se lit bien. Il y a d'un seul coup fou rire, je sais pas pour un truc, d'un seul coup. Sa tête là, c'est génial quoi, la
et
tête du chien là,
c'est... Ça, c'est un atout. C'est qu'il a fait très peu de longues histoires. Il en a fait, bien sûr, mais c'est souvent une histoire en deux pages. Et c'est pareil pour la rubrique à braque. C'est pareil pour Pervers Pépère. C'est pareil pour Hamster Jovial. On peut largement parcourir, lire deux pages, aller faire sa journée, et puis revenir en lire deux autres. Il n'y a pas beaucoup de textes. Je dis ça en pensant à tous les jeunes.
Qui veulent aller vite.
Et puis, ce n'est pas démodé, c'est indémodable. Je pense que pour le coup...
Et puis, alors, si on a vraiment envie de connaître, et je pense que vous aurez envie de connaître Gottlieb, il y a ce travail incroyable qui est fait avec cette collection. Ça, c'est le deuxième qui sort aujourd'hui. Il y a le premier qui est sorti au mois de novembre et qui, je crois, a très, très bien fonctionné au mois de novembre dernier, c'est ça, je crois.
Oui, c'était le premier à sortir. Ce ne sera pas le premier de toute la collection en 12 volumes, puisqu'on a préféré commencer par...
Oui, c'est comme Star Wars, on commence par l'épisode
numéro
4.
C'est ça, c'est un peu n'importe comment.
C'est ça.
On n'a même pas mis de numéro, parce qu'on ne sait pas exactement combien on va en faire avant, parce qu'il y a énormément d'archives, mais à une époque où il était beaucoup moins connu. Et donc, en accord avec les éditeurs, c'était plus judicieux de sortir...
T'as mis les années, quoi. C'est les années
voilà.
qui indiquent le...
Ça, c'est 68. Voilà, 1967 est sorti, donc, effectivement, pour Noël dernier. Il a été très rapidement victime de son succès. Ça a été une grosse surprise. Il était épuisé quasiment tout de suite.
Et il est toujours... Alors, je suis allé voir hier. Il est toujours très, très bien positionné dans tous les grands magasins comme la Funk. Ils sont bien positionnés, en une partout, bien affichés. Vous ne pourrez pas le louper. On ne loupe pas Gottlieb. Voilà, quand on rentre au rayon BD de la Fnac, qui est absolument gigantesque.
Alors, je tiens à dire quand même que ça a été à 99,9 une série qui est quasiment fabriquée de toutes parts par un jeune homme qui s'appelle Jean-Louis Gauthier, qui est lui-même patron de sa propre maison d'édition qui s'appelle Cornelius. Et Jean-Louis, qui est mon ami d'enfance, que j'ai connu à 10 ans, c'était son idée de pouvoir faire des intégrales comme ça en coédition qui permettaient de mettre côte à côte chronologiquement tout ce qu'il avait fait, puisqu'il a fait des choses d'un côté chez Fluide et en même temps des choses chez Dargo. Donc ça, c'est déjà unique en soi. Et puis, il a tout retravaillé. Donc, on est parti à la recherche des galéristes, des collectionneurs, des amis, des ayants droit, des followers qui sont venus faire scanner leurs planches à la maison pour que ce soit une édition ultra propre qui repart au maximum des originaux et sinon qui est complètement retravaillé. Jean-Louis a parfois passé 12 heures sur une case.
C'est incroyable, franchement, moi qui ai eu l'occasion de picorer un petit peu ces univers-là, enfin, c'est splendide. Franchement, on a juste envie de rester dedans et comme dit Thomas, de se couper du monde extérieur et de se faire plaisir en relisant ces grilles, ces cases, ces idées folles qui ont été...
C'est de la drogue.
C'est ça.
Et de la bonne.
Ouais. C'est une drogue dure, mais bonne.
Ce que j'ai beaucoup aimé, on l'a...
C'est le cartel Gottlieb.
On l'a vu fugacement, mais c'est quand on a fait apparaître le dessin de Gottlieb s'auto-dessinant, j'ai vu le sourire de Thomas s'afficher tout de suite. C'est vrai que ça provoque ça. Cette capacité à se voilà, regarder. Ouais. Je veux dire, là, on a toutes les sens aussi de ce qu'il est, et ça provoque quelque chose tout de suite de joyeux.
Ouais, puis il avait un capital sympathie, vraiment. Il était tout en étant extrêmement humble, il se dessinait énormément. Et je pense que c'était justement pour exorciser un peu sa timidité. Et c'est vrai que c'est bien con.
Ouais. Et du coup, on va y revenir avant de revenir un peu à la carrière de votre papa. Mais il y a ce prix Gottlieb qui arrive, c'est samedi prochain. Petit extrait, vous nous avez gentiment confié des extraits des éditions précédentes. Voilà à quoi ça peut ressembler, le prix Gottlieb. Et on va y revenir dans un instant avec Arène Gottlieb et Thomas Dutronc. Regardez.
Donc le prix Gottlieb 2025 est attribué à François Bouc pour Le Petit Patrick 314.
Ah là 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 là. C'est toujours important, ce genre de moment. Ça fait pourtant que... C'était la troisième édition.
Ouais.
Donc il n'y en a eu que trois, mais c'est un moment important pour tous les acteurs du monde de la bande dessinée que de se voir remettre un prix qui porte le nom de l'un des plus illustres prédécesseurs.
Bah, c'est vrai que François Bouc était extrêmement ému. Alors Mo, l'année d'avant, Mo CDM, n'en parlons pas. Même Manu Larsonel premier. Et pourtant, ce sont quand même déjà des auteurs confirmés. C'est vrai qu'on est à l'affût de tout ce qui se fait de nouveau, parce qu'on adorerait pouvoir remettre le prix à un tout jeune Fab Caro ou un tout jeune, un tout jeune Riyad Satouf ou Johan Sfar. Pour l'instant, ce qui nous a fait le plus marrer en délibération, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que ce sont ces auteurs-là qui sont très, très méritants. Et c'est vrai que François Bouc, qui est quand même pas un tout jeune, qui a bossé à Fluide assez rapidement et qui connaissait bien papa, et qui s'est certainement éprimé un peu partout, mais c'est pareil pour les deux autres, hein, en fait.
C'est pas pareil quand même.
Eh bien, j'ai entendu récemment une interview de Bouc à la radio qui disait « Pour moi, ça veut dire plus que tout le reste, parce que bah, ça veut dire que je suis encore dans le vent déjà. » Et puis, c'est quand même le prix d'un nom de quelqu'un qui était, pour nous, extrêmement culte.
Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose pour toi, Gottlieb, Arnaud,
parce bien sûr. Ben j'étais complètement dans l'idée. Il y a un ADN Gottlieb, en fait, qu'on doit retrouver. Et ça doit effectivement faire quelque chose d'avoir ce prix comme si on était adoubé là, par la famille. Et pour moi, c'est Guéluron quand j'étais enfant. Et puis, forcément, à se marrer sur des cases où on reste un quart d'heure ou une demi-heure à rigoler. Par la suite, oui, Pervers Pépère, c'était drôle aussi, quand il faut bien l'avouer. Voilà, donc il y a une amplitude comme ça qui permet de nous accompagner à chaque époque, à chaque âge. Chaque transition de notre vie. Donc oui, merci Gottlieb. Voilà.
Et je ne demande pas à Lola, parce que ça va arriver dans deux minutes, elle va nous en parler, parce qu'elle a redécouvert Gottlieb, et grâce à son papa qui était là tout à l'heure. Et c'est important, cette transmission, c'est ça qu'aussi on voulait mettre en avant. Là, on arrive au prix Gottlieb qui est remis. Mais il y a la partie avant, la partie des délibérations. Et les parties des délibérations, j'imagine que c'est toujours intense. On se fout un peu sur la gueule, ça se dispute un peu gentiment, Thomas Dutronc, ou est-ce que... Il peut y avoir unanimité selon les années. Comment ça se passe?
Ouais, c'est assez curieux. Il y a des... Moi, j'arrive, j'ai des opinions assez tranchées en général. Alors j'ai envie que ça aille plus vite parce que ça discute, ça tergiverse et tout. Je dis, bon, écoutez, c'est clair. Mais par exemple, mais la dernière fois, c'était très surprenant finalement à force de parler. Et j'étais le premier à être content de changer d'avis. Enfin bref, ça peut être... Ouais, il y a beaucoup de surprises. C'est assez intense.
Assez intense, il y a... Alors, ça déconne quand même beaucoup.
Ouais.
C'est dans une ambiance hyper bon enfant, hyper sympathique. Et au fur et à mesure des trois prix, effectivement, les avis étaient partagés. Il n'y a jamais eu une unanimité immédiate. Et puis, au fur et à mesure des blablas, ah oui, t'as raison, oui. Bon, et puis, oh, ça se finit toujours très, très bien. Et tout le monde tombe d'accord de toute façon.
Mais il y a des trucs compliqués où on est obligé de parler. Par exemple, le fait qu'on ne va peut-être pas récompenser un auteur qui a déjà été récompensé. Tu vois, ça déjà, c'est un truc que moi, j'ai pas forcément de facilité à comprendre. Enfin, je comprends le principe, mais on a besoin de clarifier ça.
Ouais,
comment se fait la présélection? Des fois, on se dit, putain, mais j'ai lu une BD super drôle, elle n'y était pas. Mais oui, mais bon, enfin, je sais pas. Je ne sais plus quoi.
Ouais, c'est comme pour toutes les cérémonies de prix, il faut choisir et il faut présélectionner.
Oui, j'imagine, je ne connais pas le...
Et puis, il y a des années où il y a plein de... Aussi, il y en a trois qui auraient mérité de gagner, enfin...
Oui.
Et d'autres, où c'est moins.
Et est-ce qu'on a tendance à vouloir aller récompenser peut-être un peu, soit des choses à l'opposé de ce que faisait Gottlieb, en tout cas dans cet ADN-là, dans ce côté un peu parfois caustique, incisif, rigolo, ou est-ce qu'on a envie d'aller vraiment dans des bandes dessinées qui ont des univers mais radicalement différents? Il y a beaucoup de bandes dessinées qui font appel à la science-fiction aussi. Enfin voilà, comment on choisit?
C'est beaucoup plus simple que ça. Ça ne repose que sur une seule chose. Est-ce qu'on se marre ou pas?
C'est ça.
L'ADN du prix Gottlieb, c'est l'humour.
Si possible.
Et l'humour éventuellement drôle, si c'est possible.
L'humour drôle, mais ça peut être l'humour noir, bleu, blanc, rouge. Voilà quoi.
En tout cas, voilà à quoi ressemblerait une petite partie des délibérations du prix Gottlieb. Je vous remercie encore, chère Ariane, de nous avoir confié ces petits moments, ces petits instants. Regardez, on rentre par le trou de la serrure, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez voir, il y a du beau monde au prix Gottlieb.
Anne. Alors, laissez quand même Anne nous expliquer pourquoi elle veut garder un Simplice.
Oui, oui.
Parce que j'ai adoré l'univers, j'ai trouvé ça, j'ai adoré le dessin.
Voilà pour le petit, les petits coulisses. On parlait de Thomas Dutronc tout à l'heure. Il y a du très beau monde, je le disais, dans le prix Gottlieb. Il y a des historiques, j'imagine, des gens qui sont là depuis le début, ou en tout cas qui étaient là au début quand il a fallu lancer le prix.
Oui, alors j'ai un noyau dur et je me trouve très, très, très chanceuse. Qui, chaque année, avant, j'envoyais un texto au mois d'août. Tremblotante, est-ce que vous re-signez, est-ce que, voilà. Et je reçois des réponses dithyrambiques, mais enfin, la Dream Team, t'es folle, tu peux pas te débarrasser de nous comme ça, etc. Donc effectivement, j'ai ce noyau dur exceptionnel, et puis bah, après, suivant les agendas de chacun, et puis bon, on peut pas être 200 jurés non plus. Je me suis limitée à 9, parce que c'est le 9e art, j'avais eu cette idée-là. C'est donc joli. Effectivement, après, bon, il y en a qui reviennent pas pour plein de raisons, mais bon, tout est toujours
top. Open.
Ouais, carrément. La première année, j'ai eu en plus Dupontel, Chabat, enfin, c'était fantastique, quoi.
Il y avait pire, hein. Il y avait pire pour ouvrir un prix.
J'ai beaucoup de chance.
Mais en tout cas, on voit qu'on est bien avec vous, parce que regardez-moi cette banane que tout le monde affiche sur la photo. Tout le monde est heureux d'avoir échangé ce moment-là. Avec vous et de vivre cette expérience ensemble, j'imagine.
Ouais, parce que là maintenant, enfin, là-dessus, il y a 80% d'amis maintenant. Bon, alors, c'est, pour beaucoup, ils connaissaient personnellement papa aussi. Donc, c'est vrai que ça aide en ce qui me concerne, puisque je ne suis que la progéniture, je ne dessine pas ou très très mal. j'écris un peu, mais bon, il n'y a rien.
On n'a pas tous la chance d'avoir l'ADN de.
Non, mais bon, en même temps, Julianne Lennon ou Thomas Dutronc, ce n'est pas donné à tout le monde quand on a un papa qui fait le même métier. Moi, je suis très contente de ne pas savoir dessiner, en fait. C'est moins de pression et c'est du coup aussi plus facile pour moi aujourd'hui de le vendre, de le promouvoir parce que c'est pas moi. Donc, et puis ça fait pas référence à un métier que je ferais moi aussi. Donc,
Louis XIV, il était fort aussi dans le genre fils de.
Oui, ça c'est sûr.
Il s'en est bien tiré. Alors justement, moi je voudrais avoir l'avis de la jeune génération et notamment de notre Lola sur Gottlieb qu'elle a découvert quasiment pas exprès pour cette émission, mais enfin, en tout cas elle a bien redécouvert pour cette émission, pour pouvoir vous en dire quelques mots, chère Ariane et cher Thomas. Lola, alors Gottlieb,
ça m'intéresse vraiment.
Vraiment Lola, alors
en fait pour moi Gottlieb avant c'était un peu c'était dans la bibliothèque de mes parents et surtout de mon père qui adorait que je salue qui adorait Gottlieb, et pour moi au tout début c'était synonyme d'interdit parce que il y avait les revues de Fluide Glacial et à chaque fois j'étais là, je marchais comme ça vers la table et à chaque fois on me dit non faut surtout pas que tu regardes ça et tout, et puis les revues étaient cachées. Donc pendant hyper longtemps Gottlieb pour moi c'était synonyme d'interdit, c'était synonyme de Fluide Glacial. Et puis en avançant et puis en me rapprochant évidemment de l'émission, j'ai redécouvert 1000 choses de Gottlieb et en fait je veux dire que c'était un plaisir de le redécouvrir parce que je me faisais vraiment des soirées où j'étais dans ma salle à manger mais morte de rire à ma table en riant simplement, en découvrant des planches. Ici j'ai pris effectivement il y a l'œuvre complète avec Galuron dont on parlait, etc. Rubrique à brac, mais j'ai pris Truc en vrac qui est un peu le premier ouvrage sur lequel je suis tombée dans la bibliothèque de mes parents, et honnêtement mais vraiment c'était un fou rire constant, c'est-à-dire qu'au début j'entrais progressivement dans l'univers, je me disais ok formidable, déjà les dessins extraordinaires. Je me disais, mais c'est génial de retrouver cette patte-là. Et puis, juste du rire et de l'humour, mais qui fait du bien parce que, effectivement, en fait, on a l'impression. Parfois, moi, quand je présente en littérature des ouvrages, j'aime beaucoup présenter des ouvrages humoristiques. On parlait de...
Elle est bien, c'est pas
vrai. Elle est géniale. On parlait de... J'adore, c'est la meilleure illustration pour...
l'homme de Vitruve.
Revue et corrigée.
Oui, voilà.
Et on parlait tout à l'heure de Fab Caro. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir conseiller, de pouvoir lire des auteurs qui sont drôles aujourd'hui. Parce que, on le disait, c'est quelque chose qui n'est pas simple de s'engager en littérature ou en bande dessinée ici avec de l'humour. Parce que, au tout début, on n'est pas sûr de toucher un public, on n'est pas sûr de faire rire. Et ici, mais c'est juste du régal parce que... ce que j'ai découvert, alors ici, truc en vrac, c'est effectivement plein de petites histoires qui vont nous faire rire avec un monsieur qui est tout petit, qui se fait agrandir, avec évidemment le caméléon, bref. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté plaire en s'instruisant. C'est répété plusieurs fois dans cet ouvrage, mais ça rejoint un peu le côté, c'est une longue tradition en fait en littérature, de plaquere et docere, c'est plaire et instruire en fait. C'est apprendre en s'amusant, et c'est toujours extrêmement intéressant parce que c'était, alors typiquement, voilà, c'était ce que je voyais et sur la plage.
C'est sûr, c'est pas vendeur pour une jeune fille de 17 ans, c'est moins.
Sur la plage, je voyais ça qui était caché, je me disais, ah, j'aurais jamais accès à ça. J'ai finalement eu accès à ça. Mais donc non, je trouvais ça formidable de pouvoir justement découvrir des choses en s'instruisant et en s'amusant.
Mais de toute façon, il n'y a pas de vulgarité.
Bien
pour
sûr,
moi.
Bien sûr.
Ce n'est que c'est bon enfant, c'est que du rire, oui, c'est bon du rire à la con. C'est toujours cette fameuse différence entre la grossièreté, la vulgarité.
Exactement.
Et le fait de faire, oui, alors effectivement, il y a des, pour parler poliment, des testicules dessinés. Mais
il y a des couilles, hein, ça ne nous dérangera pas ici. Hein,
non, mais c'est bon.
A priori, on en a beaucoup autour de là, donc c'est bon.
C'est jamais vulgaire.
Non. Non. Et puis surtout, on a besoin de l'humour et on a besoin de la bande dessinée, même quand c'est un peu vulgaire, on a besoin de l'humour et de la bande dessinée comme un espèce d'échappatoire.
Il y a une vraie finesse dans l'humour, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, il y a humour et humour. Il peut y avoir un humour qui est extrêmement grossier, qu'on peut lire dans d'autres ouvrages. On se dit, en fait, ça nous laisse quelque chose d'un peu amer. On se dit, ok, c'était drôle, mais... Et là, il y a une vraie finesse en se disant, ici, il y avait même des planches qui sont un peu plus sérieuses, mais ici, quelque chose de presque métaphysique sur la bande dessinée, avec pour un petit garçon ou une petite fille qui veut devenir dessinateur, dessinatrice, comment construire un héros, cette espèce d'abécédaire de la bande dessinée avec est-ce que vous êtes plutôt un auteur, un dessinateur qui est souillon ou plutôt qui est littéraire, qui va mettre des bulles de texte partout, qui t'a plus à avoir d'image. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant sur la bande dessinée. Et puis ces petites histoires qui sont à mourir de rire. Et je trouve que c'est vraiment un univers qu'on doit redécouvrir aujourd'hui parce que il y a plein d'auteurs qu'on redécouvre qui continuent d'exister, avec, on en parlait, l'univers d'Astérix. Il y a beaucoup de personnages qui sont restés ici. Et là, on redécouvre tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de déjà de reprendre la lecture, d'aimer de nouveau lire, parce que je pense que le biais humoristique peut vraiment être un biais très intéressant pour reprendre la lecture. Parfois, ça peut dégoûter en fait le côté très classique ou le côté très sérieux ou triste. Moi, je travaille aussi en librairie. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'en ai marre des histoires tristes, j'en peux plus, je veux quelque chose de drôle. » Et ben, c'est le moment justement de rediriger vers les œuvres de Gottlieb, vers Fab Caro, enfin, vers vraiment des œuvres qui ont une vraie finesse humoristique et qui font du bien à lire. C'est-à-dire que c'est vraiment agréable. Moi, je l'ai lu, j'ai eu des soirées où je lisais ça, mais j'étais dans une bulle pendant 2 heures où il n'y a plus rien qui existait autour. J'étais juste en train de rire, en train de lire ces courtes histoires qui s'enchaînent, et c'était un vrai régal. Donc je vous invite vraiment à redécouvrir, pour les personnes qui nous regardent et les plus jeunes, redécouvrir vraiment l'œuvre de Gottlieb, parce que ça fait du bien, quoi. C'est juste un régal.
Puis on en a tous besoin, hein. Il n'y a qu'à regarder les infos, regarder
ça fait du bien de
regarder un bon Life of Brian ou un bon Monty Python de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Sacré Graal, mon Dieu, ce que j'adore. Mais c'est vrai que j'adore ce sentiment que tu as dit d'interdit. Moi, je l'ai vécu aussi avec un autre auteur qui est, je crois, Michel Serres. Les BD de Serres, très trash. Très.
Il s'appelait Michel aussi, tu crois, non?
Ouais, peut-être.
Comme le philosophe?
Ouais, peut-être.
Tu confonds avec le philosophe, peut-être?
Non. Je sais plus, mais en tout cas, c'est des BD très trash, très...
Serres.
Mais c'est ça.
Moi, je les lisais petits, il y en avait plein.
Ah ouais.
Mais il n'y avait pas de... Tout était open, moi, chez
moi. Moi aussi, c'est mon père qui lisait ça, mon grand-père qui lisait ça. Et
l'un n'empêche pas l'autre.
Non.
Hein. Oui, que ce soit Gaston Lagaffe n'empêche pas de lire les idées noires derrière. Hein.
Totalement.
C'est le même auteur. Donc.
Totalement. Et c'est important, au contraire, de se faire une espèce de pluralité d'opinions. Et peut-être parfois, quand on lit une bonne BD, alors je te fais un petit conseil de Gottlieb, peut-être se mettre de la musique avec, pour accompagner ces moments-là. Je voudrais essayer de vous faire écouter un son, chère Ariane, et je voudrais que vous me disiez si ça évoque quelque chose pour vous. C'est vraiment de la musique, on va voir.
Satie.
Satie.
Cognosienne, c'est ça ?
Michel Satie.
Michel Satie. C'est
une hymnopédie ?
Oui. Et j'ai lu une interview de votre papa qui disait que, je crois, quand il travaillait, quand il dessinait, il aimait bien écouter la musique de Eric Satie.
Il écoutait de la musique H24, hein, de toute façon. Mais après, j'imagine qu'il y avait certains travaux dessinés où il pouvait plus facilement le faire en écoutant du classique. Donc effectivement, Satie, Ravel, Mozart, ça faisait partie de ses idoles. Enfin bon, en classique, il en avait beaucoup. Et puis, dans à d'autres moments, j'imagine que quand il dessinait Pervers Pépère, c'était moins peut-être évident d'écouter du Satie plutôt que d'écouter Zappa, par exemple. Ou bien Constipation Blues de Screaming Jay Hawkins, j'imagine. Mais
ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, quand on l'écoute, c'est que effectivement, c'est ce lien, cette connexion avec la musique, et on retrouve l'esprit de Gottlieb quand il en parle dans l'interview. On lui dit, si vous deviez conseiller à quelqu'un d'écouter Satie, vous lui diriez quoi ? C'est pas mon boulot, moi. C'est pas mon boulot de le faire. Vous écoutez simplement et vous verrez que c'est super bien, mais c'est pas mon boulot. Et ce côté très très cash et franc nous plaît beaucoup. Il y a un autre auteur et chanteur qui, je crois, a beaucoup compté pour vous avec votre papa. Peut-être qu'on a un petit extrait, un petit clip à écouter. Regardez.
Ah bah oui.
Georges.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents loups, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Ça me fait des frissons à chaque fois que j'entends Brassens.
C'est les trésors de l'humanité. Là,
on est sur quelque chose.
Je me suis engueulé l'autre fois avec quelqu'un et... qui disait, ah ouais, mais il était misogyne, Brassens. J'ai dit, quoi, Brassens, misogyne? C'est tout l'inverse, quoi. Genre,
il y avait 80... des textes magnifiques
sur les femmes, c'est un peu. Bon,
misogynie à part.
Voilà, non, par exemple, 95 fois sur 100, enfin machin. Parce qu'il y a une blague dans, je sais plus, c'est dans Une Jolie Fleur, peut-être, où il dit, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre, oui. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre, mais il parle de lui quand il a 15 ans, 16 ans. Enfin, c'est à voir avec du recul, de la tendresse.
Il faut avoir un peu de second degré quand on est
un petit peu, ouais, faut pas tout prendre au pied de la lettre.
Parce que sinon, il y a beaucoup de chanteurs, vous allez arrêter d'écouter. Ouais,
moi, c'est mon dieu aussi, vraiment. C'est Brassens, là, voilà, Gottlieb, c'est les trésors de l'humanité. C'est des gens qui font du bien avec. Beaucoup d'humilité, beaucoup, je sais pas, c'est incroyable.
Et moi, je me surprends.
Humanité, humilité.
Je me surprends, évidemment, j'ai écouté Brassens quand j'étais gamin, mais je trouve que écouter Brassens et voir Brassens, c'est pas totalement pareil. Parce qu'il transparaît quelque chose de Brassens quand il chante, cette espèce d'humanité, cette espèce de simplicité faite homme. On a l'impression de voir quelqu'un du coin de la rue et qui nous raconte des belles histoires avec sa guitare. Et c'est quelque chose d'hyper bouleversant de le voir à chaque fois en concert, même en émission télé auprès de
quel texte, chancel. Quelle musique, quel tout. Enfin, c'est
ouais. Ça pour le coup, mon père, il était vraiment jouait fan, et des Beatles aussi. Ouais. Il était archi fan.
En plus à la guitare, à certaines chansons.
Ouais, non, père. C'est pas facile. Et puis il a eu, enfin, c'était son idole. Évidemment, les Beatles et tout le reste, mais il a eu la possibilité, enfin, l'occasion une fois par le biais de Maxime Le Forestier de pouvoir le rencontrer. Maxime lui dit, on va faire une bouffe. Tu vas voir, il est hyper sympa. Et il a refusé. Il a dit non, ça je peux pas. C'est mon idole, je serais pas capable. Incroyable. Je peux pas. Ah, il a dit, mais t'es con.
C'est trop touchant.
Il est hyper sympa, hyper simple. Ouais, mais c'est non, je peux pas.
Et on va voir que Brassens a tellement compté que, quand il s'agit de vous remercier pour Gottlieb, ça donne naissance à quelque chose, à un titre qui, moi, j'ai trouvé extrêmement joli. Et on l'a passé injustement tout à l'heure dans l'ordre de cette émission. C'est une reprise faite notamment avec Thomas à la guitare et puis toutes les équipes avec Charlene Van Necker. Ça s'appelle Gare au Gottlieb.
Ah oui,
un très très joli moment que moi j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Et ben voilà, c'est un bel hommage aussi. Regardez.
C'est à travers de nombreuses cases que le prénommé Marcel nous fit marrer jusqu'à l'extase.
En témoigne la coccinelle avec le fameux galuron,
la rubrique à braque, les dingos dossiers,
pervers pépère, super Dupont.
Marcel fut un roi de la BD. Gare au Gottlieb.
On lui doit l'écho des savanes.
On lui doit fluide glacial.
Ça dessine, ça rigole et ça vanne.
Bien mieux que ce jeu de mots trivial. Souvenons-nous du hamster.
Jovial avec ses louveteaux.
Pour la déconne en phylactère, il avait le gag dans la peau. Gare au Gottlieb.
Ça me rassure, quand je chante après, je me sens plus. Quel joli moment quand même. Et quel joli moment, un très très bel hommage à votre papa, avec cette belle harmonisation des voix.
Ouais, puis une forme de remerciement à mon égard, puisque c'était une surprise qui était pour moi quelque chose de complètement fou, quoi.
Vous connaissez depuis avant le prix Gottlieb tous les deux avec Thomas. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est par l'intermédiaire justement de votre papa. Comment ça s'est passé?
Quand on a été, quand je vous ai rejoint à la cantina, notre petit resto favori avec papa.
Au Vésinet, dans ce lieu insolite et grandiose.
Voilà, au Vésinet, où il y avait, lors de ce déjeuner-là, même s'ils avaient déjà déjeuné plusieurs fois ensemble avant, ce jour-là, il y avait Maxime le forestier, Gilles Verlan, Thomas, et nous, on a rejoint avec maman. Et donc, c'est vrai que on a commencé à discuter un petit peu. Et puis, je crois que c'était en 2012, quelque chose comme
quelque
ça.
Quelque chose comme ça, oui.
Et puis, le temps a passé. On s'est peut-être vus quelques fois. Et puis après, papa est décédé. Puis là, on s'est remis en contact. Et parce que Thomas était extrêmement touché de la disparition de papa. À l'enterrement, il est venu. Il était complètement la tête à l'envers. Ça, c'est drôle. Il était... Parce qu'il faut toujours tourner ça en drôle. Il est venu en taxi. Il s'est planté de cimetière. Donc déjà, il est allé à un autre. Après, il est arrivé. Il me dit, je suis à la bourre. Je me suis trompé de cimetière. Et j'ai oublié mon sac dans le taxi. J'avais oublié ça. Et je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là, de l'enterrement. Mais ça, je m'en souviens. Et puis donc c'était un rendez-vous au cimetière direct, et puis tout le monde a chanté avec Maxime, les copains d'abord autour du cercueil qui était sur des tréteaux, c'était quelque chose de très simple, et puis à la suite de ça, en fait, on s'est plus perdu de vue, je lui ai demandé pour le prix, on s'envoyait des textos assez régulièrement, c'est le cas avec Albert aussi Dupontel, qui était très présent dans les textos et les échanges, même en vacances, même tout ça, comment tu vas, etc. Ah bah t'es où, bref. Et puis jusqu'à maintenant, alors maintenant c'est rentré dans la norme de l'amitié.
C'est la famille. Vous écoutiez, avant de vous connaître, vous écoutiez l'univers musical de Thomas, de son papa, de sa maman, de tout cette...
C'est-à-dire qu'avec mon père, c'était quand même difficile de passer à côté. Jacques, bon, il n'y a pas de sujet, hein. Depuis Paris s'éveille, que mon père adorait, et puis toutes les autres, évidemment, quant à Françoise, alors là, n'en parlons pas, donc oui, bien sûr que j'écoutais, et puis après, papa m'a mis à Thomas avec, en m'expliquant par rapport à Django Reinhardt, par rapport au jazz manouche, etc., etc., donc je me suis mis à écouter Thomas, je fais, c'est pas mal quand même, finalement, pour un fils de, il aimait pas trop bien. Et puis voilà, après c'est devenu ma vie.
Il est 5h, Paris s'éveille, évidemment, qui est un monument de la chanson. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, notamment de votre papa, qui est peut-être un peu moins connue du grand public, mais qui joue sur scène et que j'aime beaucoup. On va voir un petit extrait. Je me suis modestement permis de faire une petite entorse et de ne pas mettre un titre forcément attendu, parce que j'aime cette chanson. J'ai très honnête avec vous, je connaissais évidemment Arsène Lupin, tout ça, comme dans le grand public. J'ai acheté dans les années 90 cet album-là de votre papa. Et j'ai tellement aimé cette chanson qui m'a mis dans un espèce d'état de...
Laquelle ?
Transe. Regardez.
C'est ça, le suspense.
Dans le port de Saïgon, il y a une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Oh, toi, boisson de rêve, fumée qui monte.
ça c'est le
j'adore cette
chanson. La tournée Casino de Paris, ça c'est en 91.
80, ouais, 91, exactement.
80. C'est une chanson corse en fait, ça.
C'est vrai ?
Ouais, ouais, c'est une chanson traditionnelle. Enfin, traditionnelle, ouais, qui est en Corse, qui était une chanson des navigateurs, parce qu'il y a beaucoup de Corses qui allaient, ben voilà, en Indochine et tout ça, et qui ramenaient de l'opium des fois, enfin, voilà, et qui en consommaient. Enfin, voilà, c'est une chanson des années 20, que mon père a connue grâce à des amis corses qu'il a chanté là-bas, et qu'il a reprise.
Elle a quelque chose de très envoûtant.
Elle est très très belle, ouais, ouais.
C'est une chanson absolument splendide.
Les harmonies, les arrangements sont.
Chanson en hommage à Yves Saint Laurent, évidemment, comme. Non, non, c'est pas vrai.
mais on est là évidemment.
C'est un grand ami aussi qui s'appelle Taobi, qui est un chanteur corse. Voilà, qu'on est amis, qui a l'âge de mon père, un an de moins, qui est né un 1er mai à la fête du travail. Mais enfin, voilà, c'est pas un grand. Mais bref, enfin, c'est tout un truc. Il a fait une chanson qui s'appelle Fatigué, où il dit je suis né un 1er mai. Et voilà, et j'ai grandi aussi avec la musique de Taobi. Et je pense c'est grâce à Taobi que mon père a découvert Opium, je pense.
Mais j'ai une chanson qui me, je sais pas, à chaque fois que je l'écoute, elle me transcende, elle me bouleverse, et je trouve qu'elle est absolument sublimissime.
Ouais.
Sublimissime. Mais je tiens à le dire, on n'est pas forcément là pour ça, mais que j'adore votre univers aussi, cher Thomas.
Et, merci.
Et que ça fait du bien de réécouter cette simplicité musicale que vous savez transmettre avec votre guitare, à la fois de se poser, de vous écouter, et puis juste de se laisser porter par un son et une voix.
Et pour le coup, en parlant d'humour, en spectacle, là,
c'est un bonheur.
Fond,
ouais.
Hein. Alors là, ouais, on est au-delà d'être subjugué par la musique. Entre chaque morceau, il y a quand même quasiment un sketch, complètement à hurler de rire. Et alors les musiciens avec lesquels il est sur scène, ils se laissent aller. Puis alors, quand ils jouent, ils sont un peu mauvais, hein, mais bon, c'est pas grave, on les excuse.
C'est vrai que j'ai de la chance d'être entouré par des.
Ah ouais.
Vraiment des tueurs, parce que je me sens musicien, moi je me sens pas que chanteur entre guillemets, souvent chanteurs ils sont entourés par des musiciens très bons, mais moi comme je suis musicien je les mets en avant, j'ai envie qu'ils, puis je connais vraiment des, là c'est des pointures incroyables.
Et je ne voudrais pas oublier et avoir une tendresse, pensée pour votre maman qui était une immense artiste. Merci. Aussi. Et dans ces années-là, je redécouvre aussi ce magnifique duo qu'ils avaient fait tous les deux, puisque vous partez en voyage.
Pareil, c'est une vieille chanson de Mireille.
Mais oui, et quand je les entends chanter ça, c'est tellement beau.
Qu'adorait Brassens, parce que moi, j'ai... Brassens avait aussi des gens qu'il admirait, lui, parce que...
Évidemment.
Et c'était Trenet et Mireille, notamment, évidemment.
Mais, puisque vous partez...
La version de Sablon et Mireille est... Et encore plus belle que celle de mes parents.
Bon, avant
ça,
de...
c'est toi qui le dis.
Ah non, je veux quand même.
Celle de mes parents est très belle. Hein,
mais
Mireille et Sablon, là, c'est la folie.
Avant de laisser partir notamment Thomas Dutronc, je ne voudrais pas le retenir trop longtemps. On avait promis, il nous reste deux séquences à voir. Une pépite qu'a trouvé Arnaud. Mais avant, un extrait d'un film qui, je crois, a une grande importance aussi pour vous. Un petit extrait. Regardez, classique du cinéma français aussi, regardez.
Et ça, c'est la femme du régisseur. Je suis partout, il ne quitte pas. C'est pas le premier film où j'ai rencontré. Mais si vous voulez, je peux essayer de la faire disparaître.
Non, non, je commence à m'habituer.
Bon, d'accord.
Vraiment, en plus, je ne comprends vraiment pas pourquoi Ferrand m'a prise. Ce film, il me déteste, il ne me supporte pas, alors vraiment.
Où as-tu été chercher une chose pareille?
Ça, alors là, vraiment, j'en suis sûre. En plus, il me trouve très mauvaise. Marc, entre nous, il n'a pas tort. Je suis sûre que c'est même pas lui qui m'a choisi, le producteur. Enfin, j'en sais rien, moi. Il y a quelque chose de bizarre dans ce film.
J'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'autre pour le rôle.
Tu crois?
Mais je t'assure.
Franchement, moi, je comprends pas. J'ai pas l'impression de te demander un truc super spécial.
Oui, mais toi, tu ne comprends jamais rien. Alors, de toute façon, ça changera.
Ça, je dois dire, là, je comprends vraiment rien.
La nuit américaine.
Quelle merveille, quelle merveille.
Avec ses scripts qui envoient des vertes et des pas mûres.
Avec la script et la stagiaire.
Ouais. Ouais. Vous avez des scripts aussi, je crois, non?
Oui, 30 ans.
30 ans. Mmh. Quel bon métier, hein, sans lequel le film n'existe pas.
Absolument.
Y compris sur le tournage d'un film d'un des membres du prix Gottlieb.
Oui, en Louis, bien sûr.
On regarde un petit extrait, parce que je crois qu'il y a eu un documentaire.
Un extrait de Rendez-vous.
Regardez.
Qui d'autre?
Oh oui, sûrement. Bonjour Jean-Pierre.
Je vous conseille d'aller voir ce plan sublime qui est derrière de Richard Gottener, qui explique à quel point il faut lui nettoyer les mains, parce qu'à chaque fois qu'il va aux toilettes, il se met les mains sur la bite. C'est dit tel quel dans le documentaire et dans le making-of. Et voilà, et c'est ce film, Rendez-vous sur un tas de sable.
Rendez-vous tas de sable, oui.
Qui est sorti en 1989, si je ne me trompe pas, alors dans les années 80. On en avait parlé avec Richard il y a quelques temps, et qui est un ovni. Vraiment un ovni.
Oui, oui. Pour moi, il n'a pas eu le succès.
Mérité.
Qui, ouais, mérité, mais enfin bon, c'est quand même un film génial, particulier. La bande originale, évidemment, de Richard, elle est génial, juste ouais. exceptionnelle. Il y a quand même un Django Edwards qui est magique dans une scène mythique d'un combat de rock qui se passe sur un ring où on a tourné à Suresnes, dans la mairie de Suresnes, où il y avait je ne sais combien de figurants punk qui descendaient de la gare pour aller jusqu'à la mairie avec des coiffures à la Iroquois. Suresnes était remplie de punk, et puis Django qui faisait le con, et évidemment, plus souvent qu'à son tour. Et oh, c'était... ce film est canon, quoi.
À redécouvrir. Je l'avais revu pour l'interview avec Richard. C'est vrai que c'est un vrai ovni. Il nous reste une petite surprise qu'on voulait faire. Arnaud, voilà de nombreuses années qu'il farfouille dans les archives de la télévision. Et je lui ai dit, il faudrait qu'on retrouve une petite archive qui est sympa. Parce que moi, quand je pense évidemment à votre papa, qui nous a quittés en 2016... Impossible de ne pas penser à celui qui nous a initié à la BD quand on était petit, qui est Cabu, que moi j'ai connu grâce aux émissions d'Antenne 2 et de Récréa 2. Et alors, t'as trouvé ?
Bah, j'ai trouvé, oui, par le truchement du hasard, une émission dans laquelle se trouvent les deux, c'est-à-dire Gottlieb et Cabu. Mmh. Dans Récréa 2, en 1979, il y avait donc une sorte de jeu qu'on mettait en place qui s'appelait Marabout de ficelle, donc basé sur la chanson. Et les deux équipes d'enfants devaient s'affronter en faisant travailler leur imagination et proposer une bande dessinée interactive avant l'heure et dans laquelle il fallait téléphoner, le jeune téléspectateur pouvait téléphoner pour faire évoluer l'histoire.
ASVP. Et
ASVP 2222, vous allez voir dans l'extrait.
Oui, c'est ça.
Jean-Pierre donc, Liégeois.
Voilà, c'est ça.
Et, jeune lecteur du bar.
Et donc, c'était génial parce que ça reprend tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on pouvait passer parfois avec des choses... immontrable aux enfants, mais parler aussi aux petits gamins, parce que la première chose qu'un enfant sait faire avant même d'écrire, c'est de dessiner.
Téléphoner.
surtout pas. Et là, y a cet extrait un petit peu magique où un gamin raconte ce qu'il a lui inventé, et Cabu commence à dessiner directement, et hop, Gottlieb va à ses côtés pour prendre le relais.
L'extrait, on vous le mettra en intégralité sur la page, mais j'ai repris évidemment au moment où Gottlieb arrive en scène avec Cabu. Regardez,
et alors, on ne voit pas.
Ah si, on le voit.
On le voit, Gottlieb, oui.
Non, moi,
à vous.
J'étais dans le public.
Regardez, on va voir si on vous retrouve. Voilà. Regardez Marabout de ficelle.
Je crains le pire.
Bon, alors Gottlieb, ton rôle ici, c'est d'aider les uns et les autres. Tu es un auteur de bande dessinée, donc en principe, tu connais tous les secrets des gags et toutes sortes de trouvailles que l'on peut faire.
Absolument.
À partir de ce que l'on vient de nous raconter, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, du côté de Dorothée, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça?
Le dessin de Cabu est quand même assez succinct pour l'instant, parce que...
Qu'est-ce qu'on peut...
En 30 secondes, il devait faire le Châtelet. Alors ça a été difficile. Je ne sais pas faire les décors.
Sur le plan de l'histoire,
est-ce qu'il a parlé du pavé?
Alors,
par contre, Fidel Castro, effectivement, il en a. Comme ça vient, il vient d'y avoir le truc avec Tito, là, il
le
est truc, fatigué.
Oui,
il
le prend, fameux truc, là.
Voilà, le truc.
Une conférence des
non-alignés. Et il décide de prendre donc un week-end de vacances. Il fait du pédalo, il loue un pédalo, on le voit là. Donc je vais te faire un...
Bon, pendant qu'il va faire un petit dessin pour aider Cabu, car là, aujourd'hui nous avons la joie d'avoir deux dessinateurs, alors ils vont se débrouiller l'un et l'autre. Je voudrais vous dire que ceux qui veulent téléphoner, vous téléphonez en précisant à Bernard Matignon, je donne une proposition pour telle équipe, l'équipe Castro, hein, et je donne telle proposition pour l'équipe cimetière de voiture.
Hein. Cimetière de voiture.
Ouais, c'est un gamin qui disait il y a un cimetière de voiture de police. Donc bon, ils étaient tout fous avec ce genre de mots-clés là, et on voyait dans leur tête déjà à Cabu et à Gottlieb que ça allait fuser.
C'était un mini tac-o-tac, finalement.
Ouais, c'était génial.
Ouais, et puis s'enfiler, quoi. Enfin, il se devait comme ça.
En direct.
Parce que Cabu a été... Enfin, c'est affreux. Hein. Dire qu'il a été...
fauché dans la rédaction de Charlie Hebdo. Voilà. Je lisais une interview de votre papa, ça a été compliqué quand c'est arrivé pour lui.
Hein. Ah oui, alors je me rappelle très bien, évidemment, comme dans tous les grands événements, où on était, ce qu'on faisait, et à quel moment on le faisait, et voilà. Et je sais que c'est maman et moi qui étions à la maison. Papa était au restaurant avec, avec des amis, et c'était même pas encore... Ils ont parlé de l'attentat, mais il n'y avait pas de nom. Oui. Et d'un seul coup, c'est maman qui me dit, mais alors, mais Cabu, mais Georges, Wolinski, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'était pas du tout écrit, et j'ai appelé papa au téléphone sur son portable, et enfin bon.
C'est l'horreur.
C'est la dévastation intégrale, puis après, il en a rêvé beaucoup, longtemps, cauchemardé, il s'est vu en conférence de rédaction avec eux, il n'en dormait pas de la nuit.
Évidemment, c'était un cercle de gens qui se connaissaient, ils avaient travaillé dans des magazines ensemble, certains...
Oui, c'est surtout Jean Cabu et Georges Wolinski, puis moi j'ai bossé aussi avec Wolinski longtemps, donc disons que ces deux-là, c'était ceux qui, pour papa et moi... était le plus choquant.
Il a senti quelque chose changer pour son métier à partir de ce moment-là? Est-ce que, alors peut-être qu'il l'avait déjà senti avant, il y avait déjà eu des attentats au Danemark en 2005, mais est-ce qu'il a senti que ce serait compliqué maintenant que même en France on pouvait être attaqué parce qu'on dessinait?
Oui, je pense que c'était l'évidence. Après, lui, à cette époque-là, il avait déjà largement pris le large, c'est le cas de le dire. Donc, mais de toute façon, il était arrivé sur la fin dans une aigreur en ce qui concernait le monde dans lequel on vit, qui était proche de la déprime.
Oui, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, on pouvait rire
à
de tout.
Point de vue.
Il n'y avait pas de communauté, c'est-à-dire qu'on attaquait aussi bien l'un que l'autre, et puis là, maintenant.
Ou alors, on ne le savait pas.
On ne le savait pas, mais vraiment.
Si maintenant chacun s'offusque d'une vanne, d'une pique en vrai, on s'en sort plus en fait.
Et pour faire le point avec ce que tu nous montrais tout à l'heure, Récré à deux, je voudrais dire, il y a ce petit fascicule qui est sorti. Voilà, c'est Dorothée et Cabu, tout l'univers du travail de Cabu à l'époque dans Récré à deux pour le travail de la bande dessinée qui nous a initié à cet univers-là de la bande dessinée en direct à la télévision. Voilà, Dorothée et Cabu, le travail, et puis il y a tout l'intégral de Cabu qui est sorti aussi en BD. Et puis celui que Cabu avait formé à l'époque de Récré à deux et qui vient de sortir aussi son livre de dessin, voilà, GDB, qui lui aussi voilà, a fait beaucoup de dessins. Mais le vrai sens du cette émission, c'était ça.
Cabu était à Pilote hein, aussi.
Il était à Pilote aussi. Ouais. Ils se sont connus à Pilote, évidemment. Voilà ce très beau livre à vous procurer qui sort aujourd'hui. Le prix Gottlieb, c'est samedi prochain qui va être remis.
À 18h. Au Grand Palais,
pendant le Salon du Livre.
Pendant le Festival du Livre de Paris.
Et quel bonheur de vous avoir. Je le dis parce que j'ai vraiment beaucoup de... Et on avait beaucoup d'admiration pour ce travail et cette bande dessinée qui nous a accompagnés. Et de pouvoir parler avec vous, avec Thomas, de cet univers, de cette BD, de cet esprit Gottlieb. Ça
c'est
me fait vraiment beaucoup de plaisir d'avoir échangé avec vous. Mais vraiment sincèrement, parce qu'on comprend que vous ne dessinez pas. Mais comme on dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre et votre humanité transpire à chacun de vos mots. On était ravis de vous avoir avec nous, cher Ariane Gottlieb.
Pas tant que moi.
Et merci Thomas de nous avoir fait le plaisir de venir. C'était pas évident. Je sais que vous êtes très occupé, donc on vous remercie. On va basculer dans la deuxième partie de l'émission avec là encore une fois un artiste qu'on aime beaucoup. Julien Dassin va nous rejoindre pour évoquer éventuellement son papa. On va parler des Charlots aussi avec notre deuxième invité. Et on va faire la transition avec cette petite pastille vidéo qui va faire plaisir à notre invité Fred Tepper. C'est notre Téléclub 7. On se projette dans une bande-annonce d'une vieille série des années 80 et on annonçait en 1987 le retour d'une série pour TF1 en prime time. C'était Dallas avec Dominique Paturel et cette bande-annonce surréaliste enregistrée par Dominique Paturel, regardez.
Écoute Bobby, si tu penses te débarrasser de moi en 87, tu rêves, je serai en janvier de retour sur la une.
Dallas, à partir du 6 janvier. Chaque mardi à 20h30 sur la Une.
Voilà pour cette incroyable bande-annonce que tu nous as trouvée, que je ne connaissais même pas, tu vois, c'est une pépite.
Bah, c'est passé, quelques semaines même, je pense, avec Dominique Paturel derrière, qui s'est prêté au jeu pour refaire cette bande-annonce, c'est rigolo.
Ah, c'est génial. Et on va justement parler de Dallas dans un instant. Le temps pour nous de vous présenter notre invité qui nous a rejoint en plateau. Alors, si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, il fut un temps l'un des visages emblématiques de la loi des séries sur VL, avant de voguer vers d'autres occasions et d'autres horizons. horizon, et nous l'avons remplacé par une version intelligente de lui avec Lola. Mais nous sommes ravis que Fred Tepper soit avec nous et retrouve les couleurs de ce studio. Comment ça va, mon Fredo?
Mais ça va super, merci de m'accueillir.
Si vous voulez régler l'image, vous pouvez, parce que la tenue de Fred est en corrélation avec le fond d'écran qui est derrière. Tout a été parfaitement étudié,
coordonné,
étudié, et c'est bien connu que Fred est toujours là où il faut qu'on l'attende pour venir nous présenter aujourd'hui un documentaire qui est déjà disponible depuis très longtemps sur M6+ et sur Paris Première autour du groupe mythique Les Charlots. Et ça va être une occasion pour nous de revenir sur ce groupe qui a évidemment compté beaucoup dans les années 70. Si vous nous avez bien suivis depuis tout à l'heure, nous... il y a un petit synthé qui vient de se balader à l'antenne. Je ne m'appelle pas Nathalie. ça, a priori.
tu peux nous l'avouer. Mais...
Écoute, j'ai pas encore fait ce qu'il fallait. pas d'opération encore en vue. c'est n'importe quoi. Juste vous dire, on devait recevoir Julien Dassin, qui devait être avec nous pour nous parler de la sortie de cet album, L'Amérique Live USA, où il reprend les chansons de son papa en version moderne, et puis c'est lui qui les chante depuis une tournée aux États-Unis. Il y a eu un petit contre-emploi du temps, on va réparer ça, on essaiera de le faire revenir une autre fois, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les musiques de Joe Dassin. Je vous montrerai dans un instant un petit extrait de Pépite quand même qu'Arnaud avait trouvé pour l'occasion, et puis un petit extrait aussi, vous verrez, d'un spectacle qui avait été proposé il y a quelques années de cela. Mais auparavant, on va en mentionner Dallas, qui revient sur Prime Video, ce qui est quand même, Fred,
inespéré.
Une putain de bonne nouvelle.
Super bonne nouvelle et quelque chose de totalement inattendu, en fait.
Ouais, 14 saisons.
Eh oui. Notamment. Enfin, 13 sur Prime Video.
13 sur Prime Video, évidemment, parce qu'ils ont...
Ils ont concentré la mini-série de 5 épisodes et la saison 1.
Voilà, donc ne cherchez pas...
La saison 2, en fait.
Oui, mais il manque la saison 2 dans le timer. C'est exactement. Ça qui est complètement bizarre. Bon, c'est pas très grave. Et puis, évidemment, alors Lola le faisait parfaitement bien il y a 2 secondes. Il y a évidemment un générique qui est culte de Dallas. Et on peut compter sur Arnaud pour nous retrouver toujours la pépite. On aurait pu aller chercher le générique de Dallas. Lui, il est allé chercher carrément le groupe. Il chante le générique de Dallas.
Et regardez bien quel vêtement il porte.
Ouais, et le guitariste a longtemps travaillé avec Johnny Hallyday, notamment, ouais. Marc Domelmeester. Ouais. Regardez ce petit générique.
Tu ne redoutes que la mort.
Dallas, patrie du dollar, du pétrole. Tan, tan, tan.
Alors, le chanteur avait l'air hyper énervé.
Ouais. Bah parce qu'il est vénère.
C'est un univers impitoyable.
Mais attends, par contre, qui glorifie la loi du plus fort, madame.
Quelle horreur.
Et Dieu sait que pour glorifier la loi du plus fort, il n'est pas le moins fort, le moins faible d'entre nous. Fred,
oui.
Pourquoi Dallas, c'est un événement que ça revienne? Tiens, je te pose la question.
Bah parce que déjà, sur les plateformes de streaming, il y a énormément de séries, mais il y a. Jusqu'à récemment, il n'y avait quand même pas beaucoup de séries Goldies des années 70, 80, 90. Et ça a l'air de bouger un tout petit peu, notamment sur Prime, où on peut voir un truc totalement hors sol. C'est la série adaptée de Dans la chaleur de la nuit, que franchement, je ne pensais pas pouvoir revoir un jour.
Ah, qui était formidable.
Voilà, oui. Qui était une très bonne série. Et Dallas, l'intégrale de Dallas, remasterisée. Bon, c'est peut-être par une IA, mais remasterisée quand même. Bon, ça ringardise un peu les DVD qui en plus étaient arrêtés à cette saison en
tout
France.
Tout n'est pas sorti, oui.
Voilà. Ouais. Donc, non, c'est vraiment quelque chose d'inespéré. Maintenant, il faut espérer que derrière, on aura peut-être
d'autres
Côte
séries.
Ouest qui arrivera.
Mais parce que,
Et puis même pour la jeune génération, je trouve que parfois, c'est difficile en fait, d'entendre parler de séries ou de choses qui sont absolument incontournables et de ne pas pouvoir les voir, en fait, c'est hyper frustrant. Et donc là, les avoir disponibles, c'est chouette parce que ça permet de rattraper en fait, tout ce qu'on a raté.
Il faut un petit peu de temps quand même.
Ouais, 354 épisodes.
Ah oui.
344 sur Côte Ouest.
Exactement, 344 sur Côte Ouest, qui est la série dérivée et qui était le projet initial, en tout cas développé par CBS à l'époque. Et c'est vrai que cette série, elle a été incroyable parce que il y a eu évidemment des grands. C'est la série qui a créé les grands cliffhangers pour la télévision quasiment, à part les soap opéras d'après-midi. Et alors avec ce fameux épisode qui a duré JR, qui a réuni quand même 81 millions de téléspectateurs, la résolution de cet épisode quand même. Le méchant de la série se fait tirer dessus dans son bureau. Et qui a tué JR? Et alors, ce qui est absolument génial, juste pour raconter un tout petit peu les coulisses, c'est que quand la série, quand cet épisode a lieu, tout le monde est un peu bluffé qu'on puisse tirer sur le méchant principal. Mais Larry Hagman, qui joue le rôle de JR, lui avait bien compris qu'on ne pouvait pas faire sans lui. Et donc, ce qu'il a fait, je trouve ça absolument génial quand on lit les coulisses, c'est qu'à la fin du tournage, de la diffusion, quand il voit ce qui se passe, il prend un avion et il va se planquer en Angleterre. Et il donne plus de nouvelles du tout à la production, à personne et tout. Et il laisse ses hommes, ses collègues gérer le truc en catimini. Ça a été un enfer pas possible parce qu'il voulait pas revenir. Donc on commençait déjà à anticiper à tourner une séquence où en fait il se remettait pas de sa blessure, etc.
C'était surtout une manière de renégocier son contrat.
C'était une manière de renégocier son contrat. Et ils se sont retrouvés à faire des voyages incroyables dans le monde entier. Et notamment après la diffusion de l'épisode où on va découvrir l'assassin de JR, je ne vous le dirai pas parce qu'il faut aller voir Prime Video. Eh bien, il s'est retrouvé notamment, je crois, en Angleterre, pas très loin d'une dame qui s'appelle Elisabeth II, et lui a dit, elle lui dit, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me refuser de me dire qui a tué JR. Et il a dû lui répondre un truc, non, madame, même à vous, je ne peux pas le dire, sinon je serais obligé de prendre des mesures radicales. Donc voilà, donc, il ne l'a pas fait.
Il faut savoir aussi qu'ils avaient tourné cinq fins différentes avec des tireurs, pour pas que les techniciens ou les acteurs ébruitent vraiment, parce que personne ne savait vraiment qu'ils allaient choisir. Ouais, c'est énorme.
Et alors, il y a un autre moment qui est culte, c'est évidemment, et là je le dis pour la jeune génération, pour vous donner envie d'y aller, c'est quand Patrick Duffy, donc Bobby Ewing, décide de partir de la série. Et il dit, moi je m'en vais, donc tuez-moi. Grosso modo, on le tue. Ce qu'il ne faut jamais faire à la télévision, c'est montrer la mort d'un personnage. Ouais. Parce que voilà, donc ils lui ont montré la mort d'un personnage, donc il se fait renverser par une voiture, lit d'hôpital et tout, il est en train de mourir et tout.
Avec les derniers mots.
Avec les. voilà, encore plus fort que Marion Cotillard. Et donc il meurt. Et puis il y a toute la saison derrière qui se casse la gueule niveau audience. Et donc Larry Hagman fait des tractations dans son coin pour essayer de faire revenir Patrick Duffy, mais le problème c'est qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? On imagine un frère jumeau, pas très machin et tout. Et donc ce qu'on fait, c'est que on va faire un truc qui va être un hold-up, un saut du requin, comme jump the shark, comme on dit. C'est-à-dire quand la série elle dépasse un truc, c'est qu'en fait Pamela, donc son grand amour, va se réveiller un jour. Elle va ouvrir la porte de la douche.
Et elle entend du bruit dans la salle de bain.
Elle entend du bruit dans la salle de bain, elle va voir la porte, et la porte de la douche s'ouvre, et d'un seul coup, on voit Bobby qui se retourne, bonjour. sauf qu'attention, elle ne le sait pas.
Ah, d'accord.
Parce que la comédienne, on lui a fait faire ça avec tous les comédiens de la série, notamment ceux avec qui elle était en truc. Et lui, pendant ce temps-là, on lui fait monter avec une petite équipe réduite une pub pour du gel douche. Et ils font croire qu'ils vont tourner une pub pour du gel douche, et ensuite, les producteurs, ils ont pris les deux séquences. Ils les ont mixés et ils les ont mis au montage, à la diffusion, et ils ont décrété que la saison intégrale entre les deux était un rêve. Et que Pamela avait rêvé la mort de Bobby et qu'il n'était jamais mort.
Grand cauchemar, plutôt.
Ouais. Grand cauchemar. Voilà parmi les grands moments de Dallas.
Un sacré cliffhanger.
Un sacré cliffhanger.
Merci pour plein d'œil.
Très dans un site qui s'appelle Les Chroniques de Cliffhanger & Co. Voilà pour ne citer que ça. Revenons à un petit moment parce que on devait recevoir Julien Dassin pour parler de son papa. Et je voudrais quand même que Arnaud puisse nous présenter au moins deux des petites pastilles qu'il avait prévues. On va commencer déjà par se replonger dans cet héritage-là, en 2010-2011. Il y a un grand spectacle qui a eu lieu à l'Olympia, qui était « Il était une fois Joe Dassin », avec plein de gens issus des comédies musicales, de la Starac. Il y a Johanna, qu'on voit en ce moment dans The Voice, qui en faisait partie. Il y a Florence Coste, qui était dans Ici tout commence, qui en fait partie, et il y avait Julien Dassin. Et il y a cette très très belle intro qui ouvre le spectacle que j'avais prévu de vous montrer pour inaugurer et lancer cette pastille. Regardez, c'est le début du spectacle à l'Olympia sur Joe Dassin, initié par son fils. Regardez.
Julien Dassin. J'ai 30 ans et beaucoup de questions. Beaucoup de questions posées par le silence d'un père que je n'ai connu comme vous, qu'à travers ses images et ses chansons. Ce n'est presque rien une chanson, disait-il souvent. Pourtant, elles disent beaucoup de ce que fut sa vie brillante, sa vie douloureuse. Comment savoir
comment faire la part des deux? Depuis que je suis né, je n'ai jamais cessé de chercher qui il était, car j'avais à peine 6 mois. Oui, Julien, avec ton frère Jonathan, vous étiez là le 20 août 1980, à Tahiti, un paradis où ton père comptait s'installer. Il venait à peine d'arriver. Après avoir passé une année des plus sombres, il semblait enfin reposé, presque heureux. Il déjeunait avec quelques amis, quand soudain...
Joe Dassin est mort.
Ouais.
Évidemment, une crise cardiaque,
ouais.
À Tahiti. Et évidemment, c'est tout un pan de la chanson française qui se referme. Joe Dassin, c'est évidemment des dizaines et des dizaines de tubes absolument cultes qui sont repris notamment ici par son fils. Les Champs-Élysées, Salut les amoureux, Le petit pain au chocolat, L'été indien à toi, Siffler sur la colline, ça va pas changer le monde. Notamment une chanson Dans les yeux d'Émilie qui maintenant est là. Qui est la joie des férias dans le sud-ouest lors des matchs de rugby, que ça fait un carton. Voilà, moi j'aime beaucoup l'univers de Joe Dassin. Et alors je vous conseille une petite chanson, puisqu'on parle souvent ici de la nostalgie et des coulisses des chansons et des émissions pour la jeunesse. Je vous conseille d'écouter une chanson qui s'appelle Le Jardin du Luxembourg, qui est une très jolie chanson d'amour sur le Jardin du Luxembourg. Et vous écoutez les chœurs qui sont faits sur le Jardin du Luxembourg, et on les doit à une grande dame qu'on connaît bien ici, qui est Dominique Poulain, qui est la chanteuse de Candy, de Cendrillon, de tous ces moments-là. Et elle avait fait ce duo avec Joe Dassin. Elle faisait les chœurs de cette chanson, Le Jardin du Luxembourg, qui est une chanson un petit peu moins connue de Joe Dassin, et qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter un petit bout quand on recevra Julien. Mais à l'occasion de cette émission, Arnaud nous avait décoté plein de pépites. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on avait prévu de les faire. On va les découvrir et puis tu vas nous en parler juste
Absolument.
Après.
Oui, oui.
Voici la première qui nous repose un petit peu le contexte de Joe Dassin. Regardez.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Joe Dassin, bonjour.
Bonjour, Jean.
Joseph Ira Dassin, en fait. Hein.
Oui, Ira, je crois que c'était pour Gershwin.
Ah, oui, déjà la musique.
Déjà la musique, oui.
Vous êtes né en 1940 à New York, d'un père russe qui n'était pas musicien, mais d'une mère qui est musicienne.
Bah, il était pas encore russe. Enfin, ses parents, à lui, étaient d'origine. Russes. D'ailleurs, le nom Dassin, c'est en réalité Dotsin. Qui se prononce, enfin, ça s'écrit D-O-T-I-N. Mm-hmm. En russe, je crois que ça fait Datsin. Et comme il n'y a pas de...
En lettres latines,
on a fait Dassin.
Ouais. Ce qui fait un nom qui est à la fois grec, américain et français.
Il n'y a rien de grec dedans.
Non.
Rien de grec dedans.
Il n'y a pas de grec du tout.
Il n'y a rien de grec dedans. Alors c'est quoi ce morceau avec cet animateur? Donc moi je me souviens pas, Fred s'en souvient.
Jean Lanzi, ouais, c'était un grand du temps de l'ORTF, voilà, qui a marqué beaucoup, un grand journaliste.
Ah, c'est pour ça que tu te souviens.
Animateur et que Claude Pirard appréciait beaucoup aussi. Il voulait ressembler à Jean Lanzi, donc voilà.
On embrasse Claude
forcément au passage. Et il y avait cette émission L'invité du jeudi sur TF1. Donc là on est quelques mois avant son décès, hein, et c'est émouvant parce qu'ils abordent vraiment plein de pans de sa vie, et on apprend notamment juste après là, dans la discussion que Joe Dassin notamment avait fait une thèse. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui est emprisonné dans la chanson, bien au contraire, parce que tout comme Thomas Dutronc avait pu en parler juste avant, être fils de quelqu'un de connu, donc là Jules Dassin, un grand réalisateur de films, ça met une pression dès la naissance, on va dire, et il explique que ses parents n'étaient pas forcément contents qu'il embrasse le même métier. Sa maman était une grande violoniste. Donc voilà, on apprend à mieux le connaître, et ça avait l'air effectivement quelqu'un de qui, dans le partage, est très grand, une grandeur d'âme comme ça.
Quand on saura Julien Dassin, on lui demandera si il pense que son père est fier aujourd'hui de le voir reprendre ses chansons ou pas, quoi.
Ouais, et si lui, on lui a pas mis une barrière pour dire ne continue pas cette chose-là, sachant que chaque enfant a un J dans son prénom, lui-même a un J, et c'est son frère, et c'est
Jonathan.
Et les enfants de son frère aussi. Voilà, il y a une sorte de transmission très intéressante dans cette
famille. On aura l'occasion, évidemment, j'espère, d'en reparler avec lui. La deuxième pépite, je crois, elle est assez étonnante, il me semble bien.
Ah je suis allé fouiner un peu partout, encore une fois, comme d'habitude, et j'ai trouvé...
On regarde.
On regarde, bon.
On regarde cette pépite, regardez.
chansons, malheureusement, parce qu'il y avait deux mâles.
Ouais.
On me les a donnés pendant un numéro 1, justement.
Ah.
Et Gilbert est devenu méchant, alors on était obligé de se séparer de Gilbert. Mais Marie t'y reste, et puis sa grande joie, c'est que le matin, quand j'ai fini mon jogging, que je lui lance des bâtons. Des bâtons.
Encore une fois. Attends, regarde bien, regarde.
Alors,
regarde,
le plus souvent regarde. Possible, du jogging.
Ouais.
Et puis du golf.
Ah, ça, du golf, j'y tiens beaucoup.
Ici, là, c'est Pierre Delanoë, ton compagnon.
Ouais.
Ah, Saint-Nom-la-Bretèche.
C'est pas vilain, mon follow school, là.
Ah, je ne sais pas, hein, parce que...
Non, j'ai pas vu la
solitaire. Il a été assez critique à ton égard, Delanoë. Hein.
Oui, mais Delanoë, il joue depuis plus longtemps que moi, déjà.
Tu peux en dire autant.
Alors ça, c'est quand même juste incroyable. D'abord, ouais, on découvre qu'il a des chiens qui s'appellent, ça pour la jeune génération, Mariti et Gilbert, du nom des Carpentiers qui produisaient les grandes émissions
de
variété.
On lui a offert, lors d'une émission des Carpentiers, donc deux bergers allemands, et il est numéro un, voilà, et il explique que Gilbert, c'était vraiment une sale bête, hein, donc il a gardé que Mariti. C'est quand même hallucinant. Et cette maison était une maison refuge. Donc,
très belle en plus, cette maison.
Très jolie, voilà. Ah, oui. Et on voit après sa maman qui jouait du violon et qui aimait beaucoup venir donc, dans cette grande. Il y a une énorme véranda et en fait elle aimait bien jouer pour l'acoustique et puis il n'y a surtout pas de voisin. Et voilà, c'est très touchant. Et puis il joue au golf avec Pierre Delanoë, quand même, grand auteur de parolier.
En voyant cette. Pierre Delanoë est quand même monument de la chanson française, franchement.
Bien sûr.
Quand je vois cette image avec Joe Dassin dans sa maison et tout. En fait, je rêve d'une émission ici, entre eux, et peut-être que ce raté d'aujourd'hui va peut-être nous réaliser. Je rêve d'une émission en fait, avec Julien Dassin et Claude-François Junior, côte à côte, pour parler de cet héritage-là, puisqu'il est aussi question d'une grande maison à Dannemois, le moulin de Dannemois, où a vécu Claude-François, et que je sais que Claude-François Junior cherche à récupérer aussi pour le remettre dans sa famille. Et voilà, et je rêve de cette émission avec ces deux fils de monuments de la chanson française. Mmh. Voilà, on ne rentrera pas plus dans le détail, parce qu'on espère bien se rattraper avec Julien Dassin très bientôt, pour cette épastille consacrée à son papa, parce que ça reste effectivement un grand nom de la chanson française, et Arnaud a encore des pastilles sous le coude. Julien, il faut venir nous voir, parce que si vous saviez ce qu'il a préparé, vous seriez... venu dépêcher en courant pour nous retrouver. Je rappelle en tout cas que ce disque est toujours disponible et vient de sortir pour entendre les titres en live. Fred Tepper, mon petit, au garde à vous.
Carrément.
Bah oui, en tant que bidas, faut bien qu'on vous...
Bien sûr. Ah,
évidemment, on reparle de ce documentaire Les Charlots en folie, qui rend hommage à ce groupe Les Charlots et à ce film Les Bidas en folie, dans lequel ils ont joué. Vous allez voir un petit teaser peut-être de ce documentaire. Regardons à quoi ça ressemble, ce documentaire sur Les Charlots.
On les prenait pour des charlots, ils ont conquis le monde entier.
1 milliard d'entrées au cinéma dans le monde, même James Cameron n'en a pas fait autant.
Leur humour détonnant les a projetés au sommet.
C'est de la jeunesse folle.
Ils osaient tout.
Ils ont créé quelque chose d'assez atypique.
Non, ce qui était important, c'était de faire rire le public.
Découvrez les stars des années 70 à travers des images d'archives exclusives. Les Charlots en folie, un doc inédit, mardi à 22h35 sur Paris 1ère.
Alors là, il faut aller sur M6+.
Voilà.
C'est ton documentaire.
C'est mon documentaire.
C'est ton bébé.
C'est ma première réalisation seule.
Voilà. Ça fait quoi? Ça fait pression.
Alors oui, c'était...
ça remonte à un an et demi à peu près, je crois.
Oui, c'est ça. C'est il a été diffusé en août 2024. C'était beaucoup de pression. Parce que j'avais eu une première expérience un petit peu en co-réalisation, donc c'est pas pareil.
Sur les Baudins.
Voilà, sur les Baudins. Là, c'était vraiment moi seul à la réalisation. J'ai eu la chance d'avoir au montage un vrai cinéphile, Edouard Tissot, que je salue, et qui a fait un travail époustouflant. On a passé plusieurs semaines en salle de montage tous les deux, et voilà, il y a eu un énorme boulot, mais ce qui est vraiment... formidable dans ce film, c'est d'avoir eu la plupart des Charlots qui étaient, enfin tous les Charlots qui étaient encore en vie à ce moment-là. Maintenant, malheureusement, il y en a quelques-uns qui nous ont quittés, mais voilà, c'était passionnant de pouvoir parler de ce groupe qui, moi, m'a accompagné quand j'étais enfant.
Qui ne s'appelait pas les Charlots ?
Alors non, au départ, ils s'appelaient les Problèmes, et en fait, au départ, c'était pas des comédiens, c'était des musiciens. Et
comme les Musclés, en fait, qui n'étaient pas des...
C'est ça. Sauf que à l'époque, alors moi, je ne connaissais pas bien les problèmes avant de me plonger dans ce documentaire, mais c'était des super musiciens, vraiment des grands
des
musiciens.
Pointures,
quoi. Ouais. Des pointures avec des chansons, mais sauf que ça ne marchait pas. Donc ils ont accompagné le chanteur Antoine.
Antoine et les problèmes, pendant
quelques temps, puis ils se sont séparés, puis à un moment, ils sont devenus les Charlots et se sont spécialisés dans autre chose, avant les films, dans les parodies de chansons aussi.
Elles sont magnifiques ces photos, franchement, qui sont accompagnées de documentaires que tu nous as gentiment confié aussi. C'était pas évident, honnêtement, de faire un documentaire sur les Charlots, parce que c'est pas faire offense que de dire que... Ils sont pas plus passés que ça à la postérité si on met de côté les gens qui ont grandi avec et qui les ont connus. La jeune génération aujourd'hui connaît pas ou peu en tout cas le travail des Charlots. Donc c'était pas évident de se lancer dedans.
Bah c'était pas évident. Après Paris Première nous a laissé les coups des franches. J'ai été accompagné donc par l'atelier d'image à la production et vraiment super super bien accompagné. Et ce qui était bien, c'est que en fait les gens de ma génération un peu de la tienne peut-être aussi, mais
un petit peu moins, mais un petit peu.
Ont été bercés par ce groupe, les Charlots, que ce soit à la télévision, que ce soit en musique, que ce soit...
Merci patron,
vraiment,
merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous, c'est l'apérobic.
voilà, oui. Qui est leur dernier gros succès... populaire, on va dire. Mais voilà, ils ont été très, très, très populaires. Plus que très populaires. Ils ont fait des millions d'entrées dans le monde.
Ils ont un peu initié, du côté des chansons, pour le coup, un peu cette tendance qu'il y a eu après dans les années 80, je pense, avec le groupe Licence 4 ou avec même quelque part avec ce que fait un peu Patrice Sébastien avec ses chansons du début de sa carrière musicale sur France 2. C'est un peu ça, c'est-à-dire des chansons qui sont faites pour faire la fête, qui sont faites pour passer un bon moment ensemble,
pour pas se prendre la tête, c'est totalement ce qui prédestinait à leur travail, quoi. C'est et d'ailleurs eux-mêmes ne se prenaient pas la tête, d'ailleurs ils le disaient, hein, ils écrivaient pas beaucoup, ils se prenaient vraiment pas la tête sur les scénarios de leurs films, hein.
Ouais. Se replonger dedans, c'est évidemment se replonger dans un pan de la culture télé, cinéma, musicale. Ouais. C'est dur de faire le tri, de savoir ce qu'on prend, ce qu'on laisse, même si on veut raconter une histoire, mais il doit y avoir des... Comme je le dis, c'était pas évident, donc il doit y avoir des milliers de trucs un peu inédits et à retrouver, quoi.
Alors, c'était très difficile de choisir. Les contingences financières nous ont obligés parfois à faire des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait pu ne pas les faire, mais...
Concrètement, un extrait, ça coûte de l'argent pour mettre dans un documentaire.
Voilà. Par contre, on a eu la chance que Dorian Sarus, notamment le fils de Jean Sarus, nous confie des bobines Super 8 de prises sur les tournages de films, notamment sur les Bidas en folie, qui nous ont permis d'illustrer le documentaire de manière très riche, sans que ça nous coûte trop d'argent. Et totalement inédite, jamais vu, quoi. Ouais. Vraiment, ça, c'était génial. On a eu accès à un matériau fantastique. Je pense j'ai eu la chance d'avoir un super casting aussi d'intervenants pour parler de tout ça. On a eu Claude Zidi qui a quand même fait les films les plus marquants et les plus réussis des Charlots, comme Les Bidas en folie, Le Grand Bazar. C'était.
Il y a Thomas Croisière, il y a Thomas Gérard, Gérard Jugnot.
Il y a Yann Stotz aussi qui est un connaisseur des Charlots qu'on voit. Dans la rue de presse, sur la RTBF aussi.
Dans le Grand Cactus.
Dans le Grand Cactus, exactement.
Et Laurent Gérard.
Laurent Gérard. Enfin, voilà, on a eu du beau monde, donc ça c'était génial. Et puis
sur une durée quand même qui est assez large, c'est-à-dire que moi honnêtement, quand on en avait parlé au début, je m'étais dit objectivement n'importe quelle chaîne aurait commandé à 26 minutes, quoi. Là, on est sur quasiment une heure.
On est sur 52 minutes.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui était, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait de la musique, ils étaient extrêmement populaires. Ils ont fait énormément d'émissions de télévision qu'ils ont présentées, pas seulement où ils participaient.
Des shows un peu...
Tout à fait. Donc, ils ont fait 17 films, si je ne dis pas de bêtises, sur tout le long de leur carrière, avec des fortunes diverses. Enfin, c'était un petit peu moins bien, faut pas se mentir. Mais...
Je suis désolé, les Charlots contre Dracula est absolument formidable. Moi, j'aime beaucoup.
C'est pas totalement la fin, c'est le début du déclin.
Avec Gérard Jugnot notamment dedans.
Exactement, voilà. Qui joue un détective.
Chargé d'aller retrouver une femme qui va satisfaire un vague comte qui vit en Transylvanie.
Voilà. Mais d'ailleurs, Yann Stotz le dit très bien dans le documentaire.
Dit, ouais.
Les Charlots contre Dracula, pour lui, c'est le meilleur.
Ah oui, c'est très
cool. Ça dépend vraiment des générations aussi.
Oui, c'est ça.
Pour moi, c'est Le Grand Bazar de Claude Zidi qui est vraiment un film formidable, dans lequel il y a quand même aussi Michel Serrault, Michel Galabru, et, où il y a des gags visuels absolument incroyables. Et Zidi, c'était une épée pour ça, pour monter des gags visuels.
C'est un privilège de pouvoir monter ce genre de documentaire dans les temps qui sont ceux que l'on connaît, avec l'économie dans laquelle on est. Donc c'est important d'avoir des chaînes qui soutiennent, d'avoir des boîtes de prod qui sont là pour appuyer aussi, comme l'atelier d'image. Donc, ouais. C'est un cadeau presque, hein, de pouvoir faire ce genre de doc.
Ah bah, pour moi, en tout cas, c'était totalement inespéré. J'ai la chance que Hugues Besson et Pierre Paglia, les dirigeants de l'atelier d'image, me fassent confiance et qu'ils m'ont laissé faire comme je voulais à peu près, quoi. Donc ça, c'est une chance inespérée, ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que toi, en tant que réalisateur, non pas ce que tu as mis dans ton film, que les gens pourront découvrir, mais qu'est-ce que toi identifies les Charlots et qu'est-ce que toi tu retiens des Charlots ?
De ce que j'ai fait dans le film, en tout cas, ce que je retiens, c'est que c'était vraiment des musiciens accomplis, extraordinaires, ce qu'on ne sait pas assez, je trouve, et qu'ils ont fait rire des millions et des millions de personnes à travers le monde. Que Jean-Guy Fechner le dit à un moment dans le doc, c'était des triomphes un peu partout dans le monde. Bon, peut-être qu'il, je ne sais pas s'il exagère un petit peu, mais c'est possible. Mais vraiment, c'était les Beatles. Ils étaient acclamés partout.
Certaines parodies de leurs chansons, enfin certaines chansons étaient des parodies, mmh. Et elles marchaient mieux que, ou vendaient autant
que les originales.
Ouais. Ouais, il y avait la lumeuse de vraie berbère, ouais. Elle porte des pénis entiers. Il y avait une certaine légèreté, mais en même temps du professionnalisme. Et voilà, c'est hyper bien rendu dans ton documentaire.
Merci. Cher Fred. Mais surtout, il y avait un vrai chanteur, mmh. Qui était Gérard Rinaldi, qui était un comédien exceptionnel, ouais. Mais aussi un immense chanteur avec une voix sublime. Il y avait des musiciens formidables comme Phil, qui était un guitariste incroyable, comme Louis Rego, mm-hmm. qui était aussi un musicien vraiment de grand talent. Donc,
est-ce qu'il avait un sketch qui s'appelait La Valise, ou est-ce que c'est une pure invention pour les bronzés ? Je me suis toujours posé la question, je me suis dit peut-être que c'est à l'époque des Charlots que ce sketch complètement abruti des bronzés est né.
Alors ça, je ne sais pas.
C'est pas dit dans le...
Non, je ne sais pas, on n'a pas évoqué ce
formidable sketch ce qu'on formidable voit dans les bronzés. Dans les bronzés à la mer, plutôt, pour le coup. C'est parce que c'était justement un excellent chanteur, un très grand comédien, que finalement celui qui a le plus percé après, c'était Rinaldi.
Je pense que c'est celui qui travaillait le plus, qui faisait le plus de choses.
Qui prenait le plus au sérieux ce qu'il disait.
Oui, ouais. Je pense. Mais Jean Servus le disait un petit peu quand je l'ai rencontré. Je pense que j'ai fait une de ses dernières interviews avant sa disparition. Ouais, il était conscient, quoi. Ils étaient conscients qu'ils en... Gérard Jugnot le disait aussi, hein, qu'ils en ramaient pas beaucoup, quoi. Eux, ils prenaient, ils kiffaient, mais voilà, c'était pas des bosseurs.
Tu connaissais tous les Charlots ?
Non, je connaissais pas.
Non.
Mais quand t'as fait la...
Et, merci, patron. Bah oui, évidemment.
Ça, je connaissais.
Ça, évidemment. J'avais bien identifié que c'était. Ça, évidemment, on a bien identifié. Il y a un autre documentaire qui va arriver ou pas ?
Alors... C'est dans
je
les...
peux pas en parler parce que c'est pas signé.
C'est dans les tuyaux, mais tant qu'il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de documentaire.
Et pour l'instant, les tuyaux sont bouchés.
Voilà.
Mais tu as des envies.
Oui, j'ai des envies, mais bien sûr, j'ai des envies, j'ai des idées. Et je vais faire des bonus aussi pour les sorties vidéo de l'atelier d'image, donc, ou autres d'ailleurs.
Voilà, il y a notamment un très très bon coffret qui est sorti autour de Colombo, que j'ai eu le plaisir de m'offrir pour Noël et qui est entièrement remasterisé. D'ailleurs, la FNAC m'en veuille encore de mon intervention. Je vous dis qu'ils s'en mordent les doigts. Bah oui, quand vous avez oublié de retirer un macaron, moins 50% sur un coffret Blu-ray,
oui.
Croyez-moi qu'il y a toujours un loustique pour s'en rendre compte. Et puis, là, l'atelier d'image, ils ont aussi ce privilège, c'est qu'ils remettent en lumière des pépites du cinéma. Et quel bonheur de l'avoir vu ressortir récemment, que L'Emmerdeur, ce formidable film avec Jacques Brel et Lino Ventura. Lino Ventura joue le rôle d'un tueur à gages qui rentre dans un hôtel pour essayer d'exécuter un contrat et qui va être légèrement emmerdé par son voisin qui est joué par Jacques Brel en France Opinion et qui n'a qu'une seule envie, c'est de se foutre en l'air. Sauf que ça va pas se passer évidemment comme il le veut puisqu'il a tendance à toujours rater tout ce qu'il fait et que il va bien le faire chier Monsieur Milan. Il va bien le faire chier Monsieur Milan avec cette phrase culte à la fin que moi j'adore. Monsieur Milan, vous allez être content. Je vous ai trouvé une place dans la même cellule. Bah ça, pour moi, à chaque fois, ça marche. Ouais. C'est une pépite, ce film. C'est incroyable de voir ces deux géants qui sont ensemble dans ce film-là. Voilà. Et ça, c'est l'atelier d'image. Ils ont aussi ressorti dernièrement, j'y pense, Casino. C'est ça, hein,
de... Ouais, alors, L'Emmerdeur et Casino, ce sont des coéditions avec 7-7.
Très bien.
Et oui, on travaille avec eux. Et de notre côté, on sort aussi plein de titres régulièrement, toute l'année, tout le temps.
On va justement voir un dernier bonus, c'est la dernière bande-annonce qui a été faite pour le documentaire Les Charlots en folie. Avant de refermer, dans un instant, on va dire un mot quand même encore une fois sur le salon du livre de Paris, et puis on parlera du Solitube. Là aussi, on a une petite surprise pour vous, la bande-annonce.
Les Charlots sont des poids lourds de la comédie française.
On faisait la queue pour aller au cinéma pour voir les films des Charlots.
C'était le triomphe, hein, ils faisaient le triomphe, ils faisaient 8, 10 millions.
Les Charlots, c'était fabuleux. Ils osaient tout.
Ils ont créé quelque chose d'assez atypique.
Ils ont présenté un vent de fraîcheur.
C'est un changement générationnel.
C'est de la jeunesse folle à 100%.
Ils ont eu de l'impact.
Ils ont laissé une trace indélébile.
Fred, tu restes avec nous parce qu'on va parler du Solitube. Et là aussi, ça va te parler d'un film qui forcément va te raconter quelque chose que tu connais forcément. Un petit mot quand même sur... on en a parlé longuement tout à l'heure avec Arène Gottlieb et Thomas Dutronc sur le Salon du Livre de Paris qui arrive.
Alors j'invite de nouveau du coup à aller voir évidemment cette remise du prix Gottlieb qui est samedi à 18h si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Là, donc c'est le 17, 18, 19 avril à Paris, au Grand Palais. Je vous invite vraiment, vraiment à prendre vos places parce qu'il y a des chouettes conférences, il y a des super dédicaces. Et cette année, c'est la bande dessinée
qui a été invitée d'honneur.
C'est ça. L'année dernière, c'était le Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu le Québec, il y a eu pas mal de pays. Et là, pour le coup, c'est un vrai joli clin d'œil qui a été fait de la part de l'organisation du Festival du Livre de Paris avec la mise en avant de la bande dessinée qui est trop, trop géniale parce qu'en fait, on va pouvoir découvrir.
Elles sont
formidables, franchement. C'est de belles programmations parce que je salue quand même l'ouverture d'esprit de ce festival parce qu'il y a beaucoup de festivals qui restent un peu dans leur jus, on va dire. Et là, je suis vraiment contente parce que y a une vraie jolie programmation avec ici la nocturne gastronomie, avec le cabaret extra. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui change, qui fait du bien au paysage littéraire, qui fait du bien au paysage, on va dire, de tous les festivals qui peuvent se trouver en France. Et je vous invite.
C'est
ma petite pub personnelle.
Oh là,
allez,
là,
c'est parti.
Alors, je l'ai laissé 3 secondes tout à l'heure. Elle m'a dit « Ouais, je fais de la publicité pour le Salon du Livre ». Elle s'est glissée dedans.
Je me permets.
Mais elle est maligne. Elle est
je me permets parce que c'est pas mon genre d'habitude.
L'année prochaine, je vais découvrir que le club se lance sans moi à la animation.
D'ailleurs, on voulait t'en parler, Alexandre.
Oui, on voulait t'en parler. Mais effectivement, il y a une conférence que je vous invite à voir avec Christopher Lacaze, qui est aussi auteur, qui a sorti La Rosa Perdida aux éditions J.C. Lattès. Et on va tenir une conférence, du coup, le 17 avril à 16h, si vous voulez venir voir, Scène Concorde, pour parler du nouveau paysage littéraire, avec l'influence littéraire, et puis voilà, comment se fabriquer un avis littéraire. Ça risque d'être très intéressant. Je dis pas ça pour moi prendre la parole, mais je dis ça plutôt pour le.
Oh,
je dis plus de ça sur la discussion qu'on va avoir avec Christopher et avec la médiation.
Oui, ça va être super.
Ça va forcément être bien. À 17h donc, à 16h le 17 avril.
16h le 17 avril.
À ne pas rater.
Au Grand Palais, Scène Concorde. Voilà.
Voilà, le Festival du Livre de Paris. Il nous reste quelques minutes. On va terminer. C'est notre tradition. Je sais pas si tu la connais. Le Solitube. On ressuscite un titre. Parfois qu'il aurait fallu rester dans les limbes, mais pas celui-là.
Pas celui-là.
C'est un monument de la chanson française, vous allez voir, avec un très grand compositeur derrière. Voici le Solitube. Moi, j'attends déjà.
Ouais, Fred, tu parlais de Claude Zidi tout à l'heure, on va aborder une chanson, une musique de film... chanté par Guy Marchand, j'essaye de pas trop dévoiler, si ça y est, ça commence à venir.
Et tu idée d'indice.
Qu'on entend dans deux films différents,
ouais.
et qui était donc en ligne droite avec Jules Dassin, puisque c'est un clin d'œil à L'été indien, une petite confidence qu'avait faite Guy Marchand quelques années après la sortie de donc 1982 de ce film et de cette chanson. C'était basé donc sur la rythmique de L'été indien, donc ta la la. Et en fait, ils ont fait à l'envers pour se moquer un petit peu d'une chanson parfois un petit peu mièvre, pas pour L'été indien, mais bon, pour certains slows. Et ça a fait ta la la. On regarde ?
On regarde ? Vous allez voir, vous connaissez cette chanson.
Vous allez
regarder. Regardez.
Ah non. Destiné. Ah si, j'avais.
On était tous les deux destinés. Avoir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé dans la vie, aucun jour n'est pareil. Tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument.
C'était dans
passionnément.
Les... D'accord, c'était dans les Soudoués, voilà.
Les Soudoués en vacances.
Oui, exactement.
Vous avez vu avec cette veste.
Oh là là.
J'adore. Un an avant, c'était dans un autre film.
Et c'est, alors oui, voilà. Bon, alors, ah. Donc, Paul Memphis, Guy Marchand, grand crooner, lance, fait la tournée des plages et essaie de trouver l'âme sœur. Et avec Jean-Paul Faré, qu'on a peut-être vu vite fait à l'écran, l'ingénieur en chef dans le film invente le Love Computer. Et donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'était une sorte de tourne-manège avant l'époque où il fallait aller dans cette scène. Et puis Guy Marchand tend le bras de la prétendante et le Love Computer réagit. Et cette chanson donc prend tout son sens. Destiné. À savoir que donc dans le film, ils essayent de trouver un truc qui sonne. Alors, c'est pas les paroles de départ, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a d'autres paroles au début. Alors, alors j'ai noté pour pas savonner. Voilà, au lieu de dire destiné, nous étions tous les deux destinés, c'était désespoir, je vois tout en noir, il va pleuvoir. Et ils se disent non, bon, ça pourra peut-être pas marcher ça comme truc. Et il y a une autre version aussi qui est donc un peu plus niaise, sur la plage, j'irai te chercher des coquillages. Ils se disent non, pas non plus. Puis bon, à la fin, forcément, ils trouvent destiné et hop, ça fonctionne avec notamment Grâce de Capitani qui pense, parce qu'il essaye de, lui, il essaye de la choper. Et puis en fait, elle est amoureuse de Daniel Auteuil et finalement.
Vladimir Cosma derrière la musique.
Et Vladimir Cosma, évidemment, le grand.
Moi, je l'ai vu sur scène. C'est Tom Novembre qui chante le générique de Destinée maintenant sur scène avec Vladimir Cosma. C'est un moment qui est incroyable.
C'est, je pense, cultissime aussi. Et c'est pas forcément un solitude oublié, mais il faut pas qu'on l'oublie.
Et dans le film, l'apparition de Gérard Lenormand.
Et oui, voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a Sandrine Bonnet aussi qu'on voit vite fait. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Charlotte de Turckheim, qui elle est amoureuse de Paul Memphis.
Vous savez, c'est exactement quand je vous vois tous les deux là, je me dis c'est ça. Destiné. Nous étions tous les trois destinés voilà. À voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans regarder pourquoi,
sans demander
vous et
pourquoi.
Moi.
Bah oui. Et une dernière
destiné,
chose.
Destiné, inutile de fuir ou de lutter, Lola. Inutile de fuir ou de lutter, Lola. C'est écrit dans notre destiné. La preuve, ton père était là tout à l'heure.
Bah oui,
c'est vrai.
Destiné.
Et une dernière chose quand même, le peu de gens peut-être le savent ou s'en rappellent. S'en souviennent, pour parler français, Philippe Adler, le compositeur des paroles de Destiny, le vrai monsieur avec Vladimir Cosma et Guy Marchand, derrière cette chanson, c'était donc quand même un grand présentateur, grand amateur de jazz, qui présentait Jazz 6, notamment sur M6 pendant longtemps. Donc voilà, quand même, c'est pris comme une plaisanterie,
c'est
mais
pas une blague du tout.
Pas du tout, en fait.
Et je peux vous dire que sur scène, c'est un moment solennel. C'est pareil que quand Richard Sanderson chante la boum avec
Guy Marchand. Guy Marchand, que j'ai eu la chance de rencontrer et de voir sur scène, n'aimait pas du tout, parce que lui, ça le saoulait qu'on le réduise à ça.
Oui, oui.
Parce que bon, il avait fait la Passionnata, il avait fait plein d'autres choses. Et quand sur scène, il disait, bon, alors, il me reste un petit peu de temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Tout le monde chantait, tout le monde gueulait Destiné, putain. Et il l'a pas fait.
Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage.
Ouais, parce que c'était trop réducteur de son immense carrière aussi. Aussi bien Nestor Burma que chanteur, que tout ce qu'il a pu faire, évidemment.
Enfin, le solitube qui bascule en tube tout simple, évidemment, c'était Destiné. Je vous remercie en tout cas tous d'avoir été là. Je rappelle, le prix Gottlieb, c'est samedi au Salon du Livre de Paris avec Ariane Gottlieb et Thomas Dutron qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Le disque de Julien Dassin aussi qui est sorti, vous pouvez vous procurer, qui est disponible un peu partout. Lola qui sera au Salon du Livre vendredi.
Samedi
le 17 pour une conférence à 16h. Surtout à ne pas rater. On va y arriver. Si vous arrivez à la trouver,
bonne chance.
Vous avez du bol. Et évidemment, vous allez sur M6 Plus pour voir le documentaire Les Charlots en folie, avec aussi sur l'atelier d'image la sortie de classiques comme notamment L'Emmerdeur à ne pas rater. Et je pense qu'on essaiera un jour de faire un petit quelque chose comme ça sur ces gens qui en font naître encore le DVD aujourd'hui et le Blu-ray. Avec peut-être l'atelier d'image, ça pourrait être sympa de faire venir un peu l'équipe avec nous en plateau. Je te laisse en gérer la tractation. Merci à Maxime qui était à la manette et à qui je souhaite de bonnes vacances, parce que je crois qu'il est en vacances et ça va lui faire du bien de se reposer, parce que voilà, il se donne donnent à fond pour nos émissions et c'est toujours un vrai bonheur. Voilà, je remercie aussi toutes les équipes, Jean-Pierre qui nous a permis de faire cette émission, ton papa qui est venu nous faire un petit clin d'œil, c'était vraiment adorable. Et puis on se retrouve très très vite. Les portes du club se referment, les copains. Merci à tous d'avoir été là.
Merci Fred.
Merci Fredo. Tu reviens bientôt.
Plaisir.
Ou pas.
Salut.
À bientôt.